D'accord, ben bonsoir à tous. En fait, ça ne sera pas l'histoire du Japon intégralement, soyons bien clairs. En trois fois, en trois heures, et, enfin trois fois une heure et demie, ça fait un petit peu juste. Donc en fait, j'ai choisi un thème plutôt, à savoir que le Japon est quand même un pays assez particulier. Et ce particularisme vient du fait qu'il a du mal quelquefois à s'adapter et d'autres fois au contraire qu'il s'adapte très vite. Donc il a une histoire assez particulière. Il y a trois temps forts dans cette histoire, depuis le XVIe siècle, on va dire. C'est-à-dire d'abord un Japon qui commençait à s'ouvrir à l'Occident, un peu contraint et forcé déjà d'ailleurs, et qui va très rapidement, en l'espace de pratiquement une quarantaine, une cinquantaine d'années, va complètement se fermer à l'Occident, mais se fermer finalement à toute l'Asie également. Et on va avoir pendant, on va dire, deux siècles et demi, un régime, le régime des Tokugawa, qui va être complètement, si vous voulez, isolé, replié sur lui-même. On a l'impression d'un espèce de conservatisme quasi total, rien ne bouge, etc. Bon, vous savez très bien que sur deux siècles et demi, ça serait bien étonnant que rien ne bouge effectivement donc dans le pays. Et bien entendu, il y a des forces qui commencent à bouger, et la période des Tokugawa va se terminer brutalement avec, cette fois-ci, l'arrivée en masse des Européens, aux alentours de 1850-1853, c'est la grande époque de la colonisation, le Japon sera obligé de s'ouvrir. Donc là, le Japon, d'un seul coup, après avoir connu deux siècles et demi d'isolement, va être obligé, d'un seul coup, de s'ouvrir, et de se trouver devant une grande question, est-ce que j'attends donc les Occidentaux et j'attends plus ou moins d'être dominé, d'être en gros colonisé ou partagé comme un gâteau, comme l'est le grand voisin chinois juste à côté, ou bien au contraire, est-ce que je tente quelque chose, c'est-à-dire de tenter d'essayer de copier, ou plus précisément d'apprendre de l'Occident, parce que le terme copiage est malvenu pour le Japon, en fait il copie très peu de choses, et essayer d'apprendre de l'Occident pour ensuite mieux dominer, ou en tout cas mieux préserver mon indépendance. Bon, c'est évidemment la deuxième solution qui sera choisie, mais c'est pas franchement évident. Et puis, vous savez très bien ensuite que le Japon va connaître un autre traumatisme colossal, si vous voulez, qu'il a provoqué, bien sûr, en partie, Pearl Harbor, c'est quand même pas les Américains qui ont commencé, mais, si vous voulez, ça se termine par les deux explosions nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki, et comme traumatisme, il faut quand même bien voir que c'est le seul peuple de la Terre qui a été atomisé deux fois. Par conséquent, donc, à partir de là, ça fait quand même une rupture aussi dramatique, d'une certaine manière, que l'invasion des Européens vers 1853 et que la fermeture totale du Japon deux siècles et demi plus tôt. Donc, vous voyez quand même des espèces de mouvements brutaux, et à chaque fois, le Japon a trouvé le moyen de rebondir. Après la Seconde Guerre mondiale, il rebondit pour se retrouver finalement la deuxième puissance économique mondiale pendant longtemps, maintenant dépassée par la Chine, mais enfin on peut discuter, parce qu'il y a quand même une question de taille, etc. et autres, mais ça veut dire que le Japon a des capacités d'adaptation, des ressources absolument extraordinaires, si vous voulez. Alors, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que d'abord, l'histoire du Japon, c'est pas simple. C'est pas simple du tout, et le pays lui-même n'est pas simple non plus. Donc, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de commencer de faire, une introduction sur la période Edo, donc sur la période de deux siècles et demi de fermeture. Mais je ne peux pas commencer par là sans vous rappeler quelques bricoles sur ce qui s'est passé auparavant, tant du point de vue de la géographie, vous avez la carte du Japon, de l'archipel japonais derrière moi, que du point de vue, des principales périodes historiques qui se sont déroulées avant la période Edo. Sinon, on ne comprendrait pas grand-chose. Ensuite, aujourd'hui, on s'arrêtera, si vous voulez, on ne fera pas l'arrivée des Occidentaux, on va réserver ça pour la deuxième époque qu'on traitera ensemble au printemps, et qui parlera de la révolution Meiji, entre guillemets, où justement, on verra comment ce Japon fermé peut arriver à gérer l'irruption des Occidentaux. Donc là, on va commencer par faire un petit rappel, rapidement. Le Japon, si vous voulez, en japonais, c'est Nippon, et ça veut dire tout simplement pays du soleil levant, pas la peine de chercher midi à 14h, donc si vous voyez la carte qui est là, au début du XVIIe siècle, on peut dire qu'il a pratiquement une sorte de définition territoriale quasiment identique à celle qu'il connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, en gros, ça fait à peu près 377 000 km². Ce qui veut dire qu'il est tout à fait pour nous à l'échelle européenne. Vous voyez, du point de vue, donc, prenez la France, 550 000, etc. Il a pratiquement l'extension de l'Allemagne, si vous préférez. Par conséquent, donc, c'est un pays qui est tout à fait à notre échelle, si l'on peut dire. Vous avez vu aussi, en fonçant une porte ouverte, c'est un archipel qu'on pourrait presque comparer un peu aux îles britanniques, avec une différence quand même, c'est que par rapport, à la proximité du continent, ça paraît rien, mais quand on regarde ici le détroit de Tsushima, il faut quand même faire 200 km pour aller, si vous voulez, de la côte japonaise jusqu'à la côte coréenne. Et si vous voulez aller de l'autre côté, c'est-à-dire le côté chinois, ou faire le tour plus précisément de la péninsule coréenne, ça fait 800 km. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup et c'est pas facile, surtout compte tenu des conditions de navigation de l'époque, pour aller de l'un à l'autre. Par conséquent, le Japon, il avait quand même une certaine prédisposition, si on peut dire, à l'isolement, malgré tout, compte tenu des conditions donc de transport de l'époque archaïque ou médiévale ou même moderne. Alors, ensuite, si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, vous connaissez, il y a quatre grandes îles, hein. Bon, il y en a 3000, hein, au total, du point de vue de l'archipel au sens strict du terme. Il y en a quatre que vous connaissez bien, la plus au nord, et qui s'appelle Hokkaido, ça signifie la sauvage, hein, c'est pas tout à fait par hasard, elle a été vraiment commencée à dominer, on va dire, au début du XVIIIe siècle, et puis, disons, aménagée progressivement dans le courant du XIXe. Vous voyez, par conséquent, celle-ci, elle n'a pas un climat très sympathique, elle n'est pas très facile donc à dominer, donc on l'a toujours appelée un peu cette sauvage. Ensuite, ben, vous avez la grande île au milieu, vous voyez ici, hein, d'un seul tenant, cette île c'est Honshu, ça veut dire tout bêtement la principale, hein, on ne peut pas être plus clair. Alors elle toute seule, elle fait 230 000 km², vous voyez, sur 377, c'est quand même important. Ensuite, vous avez la petite île ici de Shikoku, hein, plus précisément, ce qu'on appelle l'île des quatre provinces, c'est ça que ça signifie, parce que dans l'ancien temps, il y avait quatre seigneurs de la guerre, des daimyos, comme on les appelle, qui se partageaient donc la petite île en question. Et puis vous avez l'île la plus méridionale, celle de Kyushu, qui est l'île des neuf contrées, c'est ce que ça signifie, et qui, bon, ben, elle aussi était partagée dans un certain nombre de seigneurs. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que, quel que soit le pays, vous pouvez prendre, par exemple, les États-Unis au sud, vous pouvez prendre, si vous voulez, la France du sud, bon, vous savez, ceux qu'on appelle les méridionaux. Généralement, les méridionaux, ils ont toujours, disons, une attitude un peu plus... On peut plus laxiste, si vous voulez. Souvent, on dit, bah, ils sont un peu plus rigolos qu'au nord, etc. Pour les Japonais, c'est exactement pareil. Les Japonais du Sud, c'est-à-dire de Kyushu et de Shikoku en particulier, sont beaucoup plus ouverts, sont beaucoup plus prêts à accepter beaucoup plus de choses, à tenter beaucoup plus de choses. Ceux du Nord sont beaucoup plus rigoureux. Et il y a toujours eu, et il y a toujours encore aujourd'hui, une espèce de, bah, disons, d'un petit peu de séparation entre les deux. Alors, si vous voulez, cet archipel, vous allez là, vous le voyez très bien sur la carte avec les couleurs, hein, plus c'est foncé, plus c'est haut. Bon, c'est un archipel plutôt montagneux. C'est même tellement montagneux, ça fait 85% de la superficie. Vous voyez, donc à partir de là, inutile de dire que la superficie utile donc pour les Japonais est très faible. Vous voyez très bien que les parties vertes ou jaunes, et surtout vertes en fait, ben, c'est les plaines, et les plaines sont petites et peu nombreuses. Et en plus, gros inconvénient, c'est qu'elles sont séparées par des morceaux de montagne qui ne facilitent pas la circulation. Alors il n'y a vraiment qu'une seule grande plaine, vous voyez ici, c'est la plaine du Kanto, la plaine de Tokyo, Yokohama, etc., hein, qui est celle aujourd'hui qui renferme, bah, les 30 millions d'habitants de la grande métropole tokyoïte. Hein. Bon, mais déjà à l'époque, c'est là aussi où on va trouver, un peu après, la capitale, donc qui à l'époque s'appelait Edo, qui va devenir Tokyo, et qui va compter, dans notre époque, là, qui nous intéresse, plus d'un million d'habitants. Vous voyez, quelque chose d'énorme malgré tout aussi. Et puis en dehors de ça, bah, vous avez, on va dire, la plaine à peu près correcte, celle de Nagoya, et puis bon, quelques petites plaines par-ci, par-là. Bon, donc par conséquent, vous voyez, c'est pas un archipel très accueillant au sens strict du terme. Alors par contre, bon, ce qui est évidemment plutôt intéressant, c'est que vu le découpage des côtes, ben, il y a énormément de sites d'abri. Donc on peut mettre des quantités de ports. Donc il faut voir que les Japonais ont toujours été tournés vers la mer. Alors, pas à notre époque, puisqu'on va leur interdire de, disons, d'aller à l'étranger, mais ça ne les a pas empêchés de se servir de la mer. Et la mer à côté, elle est nourricière. Par conséquent, compte tenu de la faible superficie, si vous voulez, utile du Japon, ben, la mer, c'est un élément fondamental, que ça soit la mer côté intérieur, comme on appelle côté mer du Japon, en fait, mer de Chine, si vous préférez, ça dépend de quel côté on se place, ou bien côté océan Pacifique. Bon, ben, des deux côtés, les Japonais se sont toujours servis, ont utilisé la mer, et bon, ben, il y a pas mal de kami, entre guillemets, de divinités, hein, qui ont leur territoire sur la mer, parce que pour eux, ben, c'était absolument fondamental. Bon, vous savez aussi, pour les événements récents, la tectonique des plaques est plutôt complexe dans la région, et vous savez très bien que le Japon se situe sur la ceinture de feu du Pacifique. Ça donne un certain nombre de volcans. Hein. Le plus beau des volcans, ben, vous le connaissez un peu, si on peut dire, c'est le Fujiyama, hein, donc qui fait 3700 et quelques mètres d'altitude, et qui est, si vous voulez, le point culminant du Japon. Hein. C'est un volcan. Alors, c'est un volcan qui n'est pas éteint. Vous savez que pour être éteint, il faut remonter à pas mal d'années avant notre ère. En réalité, sa dernière grande éruption date de 1707, c'est-à-dire, en fait, pendant la période donc des Tokugawa, dont on a à s'occuper. Bon, il n'est pas très méchant, si on peut dire, et par conséquent, il ne marque pas tellement dans l'histoire par ses éruptions. Ceci étant dit, il est calme depuis 1707, ce qui est déjà pas mal. Bon, par contre, il y a quand même au Japon 200 volcans, dont environ une vingtaine d'actifs aujourd'hui. Donc vous voyez, par conséquent, on a une certaine habitude. Deuxième chose, vous savez qu'au volcanisme actif sont associés, en dehors, alors, si pour les Japonais c'est très important, c'est les sources d'eau chaude, hein. Et vous savez que les Japonais sont un peuple qui adore les bains, et par conséquent, bon ben là, ça a été pour eux un don de la nature que d'avoir justement ces bains à proximité, à domicile, là où ils pouvaient se servir immédiatement. Bon, ceci étant dit, un autre inconvénient, c'est les tremblements de terre. Hein, les tremblements de terre, vous savez que chaque année, si je ne compte que ceux qu'on ressent, on en compte au moins 500. Donc, pas forcément tous méchants, mais en attendant, bon, quand même impressionnant. Et ça a été toujours le cas. Résultat, par conséquent, la civilisation japonaise, depuis la plus haute antiquité, ben, s'est adaptée à ces tremblements de terre qui tantôt étaient méchants, tantôt un peu moins. Mais de toute façon, ils risquaient régulièrement de prendre le toit sur la figure. À partir de là, ben, évidemment, ils se sont servis de quelque chose qui était précieux pour eux grâce aux montagnes, c'est la forêt. La forêt qui est très importante, et cette forêt qui leur a permis, par conséquent, de construire aussi bien leur maison en bois, pas trop lourde, par conséquent, parce qu'on se prend un plafond en bois, c'est un peu moins gênant qu'un plafond en pierre. Et résultat, donc, ils ont beaucoup vécu aussi avec la nature japonaise, notamment le bois, la forêt, si vous voulez. C'est le deuxième élément nourricier de la civilisation japonaise après la mer, ou en même temps que la mer, si vous voulez. Et le bois, ben, on le trouve partout. On le trouve dans les paravents, on le trouve dans les cloisons, légères, mobiles, etc. Bref, on s'est adapté à la nature qu'on avait à côté. Et surtout ben, aux difficultés, disons, des tremblements de terre et autres. Je vous rappelle quand même que les tremblements de terre méchants, ça fait de l'ordre de 100 et quelques mille morts. Tout le monde se rappelle donc de celui de Yokohama en 1923, ça fait 177 000 morts, ou 123 000 morts plus précisément. Et puis, ben, il y avait à peu près le même, sous les aussi, à peu près notre période, aux alentours 1740, on a eu un tremblement de terre du côté des Aka qui a été aussi destructeur. Donc on a l'habitude, heureusement c'est pas très fréquent, mais ça se produit quand même assez régulièrement. Enfin, la dernière chose, et ça on est bien placé pour le savoir dans les derniers mois qui se sont passés, généralement ces tremblements de terre sont accompagnés de tsunamis, hein, donc de ces raz de marée. Alors, 1 sur 3 est accompagné d'un tsunami, je veux dire, c'est beaucoup. Alors, nous, ça nous a surpris, le tsunami qui s'est passé, donc parce qu'il était énorme, celui-ci, et comme il y en a un, comme ben, on espère tous les millénaires et encore, mais il n'empêche que des tsunamis comme ça, les Japonais en avaient déjà connu, et puis, il y a de multiples petits tsunamis consécutifs aux tremblements de terre multiples qu'ils ont. Donc, vous voyez, là aussi, l'habitude de ne pas se mettre n'importe où. Vous avez peut-être remarqué que la civilisation japonaise, depuis très longtemps, est habituée aux endroits jusqu'où l'eau monte le plus haut. Et c'est simplement la civilisation moderne, avec sa technologie, qui fait qu'on s'est dit, ben, avec les digues qu'on fait, on se fiche complètement de ce que les anciens pensaient et où on allait s'arrêter pour construire. Donc, on a construit dans les zones qui étaient dangereuses. Bon, à l'époque, il était hors de question de construire des zones dangereuses. Et on a partout des espèces de stèles, hein, ça n'a rien à voir avec des bornes millières ou quoi que ce soit, des stèles de stèles qui disent, au-delà de cette limite, vous ne construisez pas parce que c'est potentiellement dangereux. Et on s'est aperçu pour le fameux donc tsunami de cette fois-ci que, à une ou deux exceptions près, l'eau n'était jamais montée au-dessus de ces fameuses bornes que du coup on a redécouvert et qu'on est en train de retopographier à la vitesse grand V pour se dire, ben, il faudrait peut-être qu'on reprenne un peu une idée donc un peu traditionnelle du Japon. Bon, vous voyez donc le Japon c'est quand même un pays assez particulier. Alors autre chose aussi, ce Japon c'est un arc. Et cet arc, ben vous voyez, il est bizarrement situé, si on peut dire, en latitude par rapport à nous. Vous voyez que Hokkaido, c'est à latitude de Bordeaux. Hein, et si vous prenez Tokyo, c'est à latitude de Gibraltar. Et si vous prenez donc le sud de Kyushu, ben c'est disons le sud marocain pour l'essentiel. Par conséquent, vous voyez, ça s'étend sur 2200 km, 28 000 km de côte, vous voyez à peu près ce que ça représente, c'est quand même pas rien. Bon, on pourrait penser du coup qu'il fait relativement chaud au Japon, c'est pas vrai, on est sur le côté est des continents, et par conséquent, on sait que ça se traduit par un climat plus dur. En plus, ici, vous avez un climat qui est influencé par deux courants, disons, marins, un qui est chaud donc et qui vient du sud, forcément, et un qui est froid qui vient du nord. Ça n'a pas une grande importance, bon, ça atténue en quelque sorte d'une certaine façon, ou ça aggrave à certains points, ben, disons, les contraintes climatiques, mais c'est surtout un gros avantage, c'est quand vous avez deux eaux de qualité différente donc, qui se rencontrent, ça donne une zone extrêmement poissonneuse. Résultat des courses, ben, là encore, on retrouve la mer nourricière pour les Japonais, donc vous voyez pourquoi, de ce point de vue-là, les Japonais se sont dit un peu bénis des dieux, donc de ce point de vue-là. Bon, autre chose aussi, le fait qu'on soit 2200 km du nord au sud, ben, ça signifie des amplitudes thermiques, des amplitudes climatiques qui sont importantes. Mais, comme on est au milieu de l'eau, ça se voit bien, il n'y a pas de saison sèche, à aucun endroit. On peut avoir des amplitudes thermiques très fortes, mais pas de saison sèche. Ça, c'est la grosse différence. Et puis surtout, comme on a des influences qui viennent du nord, du sud, humides, etc., on a, une nuance climatique extraordinaire. En gros, pour vous donner une idée, on connaît au Japon, du nord au sud, 168 espèces d'arbres différents. Dans toute l'Europe, hein, du nord au sud, on en a 85, c'est-à-dire finalement moitié moins. Donc vous voyez à quel point on a un entremêlement de végétation, parce qu'il y a tellement donc d'influences diverses et variées. D'où, là encore, l'importance pour la civilisation japonaise de cette végétation, qui est tantôt exubérante, tantôt au contraire un petit peu difficile, et donc cette fascination pour les jardins. Hein, alors les jardins qui souvent sont des jardins miniatures, parce qu'on essaye de recomposer un petit peu cette diversité naturelle, ça fait partie véritablement de leur cadre et de leur civilisation intégrale. Donc vous voyez par conséquent quelque chose d'assez particulier. Alors c'est pas non plus très gentil, hein. Quand on est à Hokkaido, on peut se ramasser avec en plus le courant froid, on peut se ramasser des tempêtes de neige absolument colossales. Hein, on a fait les Jeux Olympiques du côté d'Hokkaido, c'est pas par hasard, mais ça peut être bien pire que ça. Et puis quand on est au sud, là on est dans un climat subtropical, voire tropical, et on se ramasse des typhons, quoi. Bon, et maintenant, en fait, les typhons, ils ont tendance, compte tenu des petits problèmes climatiques qu'on connaît, à remonter de plus en plus au nord. Bon, vous voyez, donc, par conséquent, les Japonais ont eu l'habitude de vivre avec une nature qui n'était quand même pas forcément toujours très sympathique, qui pouvait à la fois leur donner beaucoup, mais finalement leur prendre aussi pas mal. Donc ça, si vous voulez, c'est pour un peu rappeler ces histoires, ces contraintes géographiques. Deuxième chose après, cette géographie, malgré tout, elle a aussi des effets de longue durée sur l'histoire japonaise qui sont très importants. D'abord, c'est que le Japon a été très difficile à envahir. En réalité, il n'a pratiquement jamais été envahi. Donc, si vous voulez, cette disposition de ces côtes difficiles, etc., ça donne une inaccessibilité aux invasions étrangères. Ça veut dire aussi, également, une tendance naturelle à l'isolement. Si on veut s'isoler, on peut le faire sans trop se fatiguer. Donc, vous voyez, par conséquent, on peut jouer sur les deux côtés. Et par exemple, le fameux Marco Polo, vous savez, il parlait du Japon. Nippon, lui, il n'a pas bien compris, c'est devenu Sipango. Bon, et Sipango, il avait vraiment envie d'y aller, mais il n'a jamais pu y aller. Bon, il n'y a rien à faire, les courants n'ont jamais été favorables, c'était trop loin, c'était trop difficile, il n'a jamais pu y aller. Bon, vous connaissez aussi tous l'histoire des invasions mongoles du XIIIe siècle, vers 1270, 1280, je vais un peu vite. Et vous savez, les fameux vents divins, les kamikazes, hein, qui ont dispersé la flotte. C'est un peu plus complexe que ça, hein, on a un peu enjolivé. Et ça a été vraiment les deux fois où les Mongols, qui venaient de dominer la Chine, voulaient véritablement aussi dominer le Japon, qui refusait d'être leur vassal. Bon, ça a raté les deux fois, d'abord parce que les Japonais se sont bien défendus, ils connaissaient bien le terrain, puis deuxième chose, effectivement, ils ont été deux fois aidés par des vents très forts. Il faut dire aussi qu'ils avaient été aidés par une chose, c'est que c'était des charpentiers coréens qui venaient d'être dominés par les Mongols, qui avaient construit la flotte, et on leur avait demandé de faire très vite et d'une manière très dure sans les payer beaucoup, ils avaient construit des bateaux absolument catastrophiques de point de vue qualité, ce qui fait qu'à partir de là, le vent a été d'autant plus efficace. Vous voyez ? Bon, donc, pour vous dire qu'il y a à la fois la chance, mais il y a aussi d'autres raisons. Bon, en fait, si vous voulez, il n'y a que vraiment les grandes découvertes européennes, si on peut dire, qui ont commencé à pénétrer au Japon. Alors, ce n'est pas facile, parce que les grandes découvertes, c'est plutôt plus au sud. C'est plus facile. Là, par contre, il faut remonter. Donc, il y a très peu, en fait, d'Européens qui sont allés faire un tour par là. Et ceux qui ont été les plus aventureux, c'est les Portugais. Hein, c'est les Portugais qui se sont pointés les premiers. Et ils se sont pointés, si vous voulez, entre 1542 et 1543. Ils sont arrivés par le sud, et ils sont arrivés plus précisément, vous voyez, si on regarde un petit peu, vers Kyushu, et plus précisément ici, vous voyez une ville qui s'appelle Kagoshima. Bon, eh bien, ils sont arrivés à Kagoshima. Et en même temps qu'on a eu des Portugais qui sont arrivés, eux, je vous rappelle, ils n'avaient pas du tout envie de coloniser. D'abord, ils n'en avaient pas les moyens, hein. Ils étaient très peu nombreux, puis le Japon, c'était très loin, donc les Portugais, c'était des comptoirs qu'ils faisaient. Donc, pour eux, ce qui les intéressait, c'était le commerce. Bon, eh bien là, à Kagoshima, ils vont mettre aussi sec un comptoir commercial, et surtout, ils vont faire connaître des quantités de choses nouvelles aux Japonais, qui vont complètement changer la donne. La première des choses, c'est les armes à feu. Les Japonais, rappelez-vous, on connaît tous les sabres des samouraïs, etc. C'était bien vrai à cette époque-là. C'est encore vrai après, mais ça devient plutôt de la décoration qu'autre chose, puisque la période va être calme. À cette époque-là, on servait des sabres. Là, d'un seul coup, les daimyo, c'est-à-dire les seigneurs de la guerre qui sont au sud, ils vont très vite comprendre que les armes à feu, ça pourrait peut-être être utile. Et ça va changer, bien sûr, le cours des choses dans les combats entre seigneurs de la guerre, si on peut dire. Les Portugais, très rapidement, vous savez, il y a aussi l'aspect, religieux, hein, qui va avec. Et c'est pas n'importe qui, c'est Saint François Xavier qui débarque à Kagoshima en 1549. Donc jésuite, etc. Bon, il reste pas longtemps, en 1551, il part, donc il reste que 2 ans. Mais il a énormément marqué, si vous voulez, le Japon de sa présence. Et à partir de là, il ouvre la voie à toute une série de missionnaires portugais, ensuite des missionnaires espagnols, qui vont commencer à évangéliser. Donc le Japon. Et a priori, ça marche pas si mal que ça, parce que les Japonais sont assez tolérants, et que pourquoi pas essayer cette espèce de religion qui, par certains côtés, leur rappelle un peu le bouddhisme, ils comprennent pas trop, mais bon, ça peut être intéressant. Donc, si vous voulez, là, on a un contact assez particulier. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez compris, ça a été pendant longtemps, et toujours, les Japonais ont eu la possibilité d'un développement autarcique. C'est-à-dire que, bien sûr, aujourd'hui, c'est pas le cas. Avec l'industrie, on a besoin de matières premières, d'énergie qu'il n'y a pas au Japon. Bon, à l'exception du charbon et encore. Bon. Donc, par conséquent, mais pour l'époque où il n'y avait pas d'industrie ni quoi que ce soit, ben, les tendances autarciques, est-ce que je vous ai dit, la pêche, la forêt, les 12% de surface agricole utile qu'on cultive intensivement en riz, ben, à partir de là, il n'y a pas de problème. On peut supporter de fortes densités et on peut, par conséquent, vivre à peu près correctement dans le pays, à condition quand même qu'on ait évidemment pas trop de population et pas trop forte densité. Ça veut dire aussi que le riz, ben, ça donne, si vous voulez, la riziculture, ça donne les fortes densités, mais ça donne aussi une civilisation particulière. Ça donne une organisation sociale qui est extrêmement forte, qui est extrêmement hiérarchisée, qui est cohérente et surtout qui est très conservatrice. Parce que si on laisse faire le désordre dans l'irrigation d'une riziculture irriguée, c'est toute la communauté qui risque d'avoir faim la fois suivante. Par conséquent, vous voyez ce que ça donne. On a des communautés villageoises avec de très fortes contraintes qui assurent la sécurité parce qu'il y a des services d'ordre, hein, on ne fait pas n'importe quoi, il y a une hiérarchie très précise et on obéit donc au chef véritablement. On maîtrise l'écoulement de l'eau, l'irrigation, on a donc une agriculture intensive, les rendements sont élevés, on peut donc avoir une forte population. En même temps, comme l'eau est bien maîtrisée, ben, il y a peu de maladies. Malaria et tout ça, c'est pas tellement connu au Japon. Justement parce que on maîtrise bien l'eau, parce qu'on la domine, parce qu'on sait que par certains côtés elle est dangereuse, les milieux sont plus sains, on a donc une force de travail très nombreuse, ça permet cette agriculture intensive et ça permet des très fortes densités. Ce qui fait que le Japon, si vous voulez, au début de notre période, il va compter 15 millions d'habitants. Et donc ça aux alentours, si vous voulez, de 1580 à peu près. Et à la fin de la période donc Edo, juste au moment où on va s'ouvrir donc aux Occidentaux, on va se retrouver avec à peu près 27 millions de Japonais. Donc, il ne faut surtout pas dire qu'on a complètement bloqué la natalité parce qu'on ne voulait plus aucun contact avec l'extérieur. Tant qu'il y a eu possibilité d'augmenter les rendements, d'augmenter l'intensification de l'agriculture et notamment de la riziculture, on a pu augmenter la population. Par contre, à partir de 1820-1830, là, par contre, on ne peut plus rien défricher, il n'y a plus rien de possible, et là, on commence à connaître des famines au Japon. C'est pour ça, à partir de là, si vous voulez, que lorsque les Occidentaux vont arriver et vont ouvrir le Japon, j'allais presque dire que c'était temps, parce qu'il commençait à y avoir de nombreuses révoltes agraires, etc., parce que le système ne tenait plus. Et par conséquent, c'est dans ces années-là, entre 1820 et 1850, qu'on commence à pratiquer de plus en plus des infanticides au Japon, par exemple, qu'on prévoit aussi de limiter les naissances en grande quantité, tout simplement parce qu'on sait que, vu qu'on n'a pas le droit de sortir du Japon et que d'autre part on ne peut plus agrandir la quantité cultivable, ben, il n'y a rien à faire, il faut absolument limiter la population. Mais vous voyez, c'est quelque chose de relativement récent et pas du tout sur un siècle et demi, véritablement. Pendant un siècle et demi, la population fait presque un doublement et c'est simplement après qu'on bloque, si vous voulez, l'évolution. Bon, vous voyez, par conséquent, la civilisation du riz, etc. Donc, là aussi, une chose à bien comprendre pour comprendre les Japonais, la priorité est donc accordée à la communauté, à la société, à l'ordre social. Coup de peau, il va y avoir le confucianisme hein, qui va venir de Chine, ça c'est génial, parce que ça va permettre justement, ben, disons, de faire accepter ça beaucoup plus facilement. Mais ceci étant dit, il y a une expression qui est assez intéressante, je trouve, c'est que vous avez une expression, un proverbe japonais qui dit « le clou qui dépasse doit être enfoncé ». Ça ne peut pas être plus clair. Vous voyez ? Donc, histoire de dire, bon, à partir de là, s'il y en a un qui ne fait pas ce que les autres ont l'habitude de faire, et s'il flanque la panique dans la communauté, on peut tout perdre. Donc, celui-ci doit être éliminé. Donc, si vous voulez, l'habitude du corps social de la communauté, bah, c'est quelque chose qui date de la plus profonde antiquité chez les Japonais. Pas étonnant à partir de là que nous, qui avons quand même un peu plus d'individualisme dans la tête, ça nous surprenne un peu quelquefois au niveau de leur réaction, y compris contemporaine, ça va de soi. Bien, voyez par conséquent ce que ça donne. Troisième point aussi qui est important, le fait d'avoir cet isolement qu'on a vu donc à travers donc la carte du Japon, eh bien cet isolement aussi, ça a permis la création d'une civilisation pas vraiment originale, mais autonome. Ça signifie, si vous voulez, que la civilisation japonaise a fait des quantités d'emprunts au continent, ça veut dire aux Chinois, ni plus ni moins. Et les emprunts de taille, la langue chinoise, le bouddhisme, le confucianisme, la riziculture, l'art en grande partie, tout ça, ça vient de Chine, et surtout dans les premiers siècles, si vous voulez, de notre ère pour l'essentiel. Mais, si vous voulez, ça n'a pas été, la civilisation japonaise, une civilisation d'imitation. Ils ne se sont pas contentés d'avaler ce que les Chinois leur ont bien voulu leur donner et qu'ils ont pris aux Chinois, mais en fait, si vous voulez, ils ont décidé de transformer, d'adapter en quelque sorte cette civilisation chinoise à leur civilisation à eux. Et du coup, comme ils étaient isolés du reste du monde, cette originalité culturelle a pu véritablement se développer. C'est ce qui fait, par exemple, que un truc très important, c'est quand on pense à l'empire du soleil levant, bah, si on pense à l'empire chinois, vous savez que l'empereur, bon, il fait l'intercession avec le ciel et il a ce qu'on appelle le mandat du ciel. C'est-à-dire que Dieu, les dieux lui ont donné donc la mission donc de les représenter sur terre et d'assurer la prospérité, etc. Et de temps en temps, bah, il y a des accidents, il y a des typhons, il y a tout ce qu'on voudra, des tremblements de terre et autres, des invasions barbares, et on a l'impression que le mandat du ciel, bah, comme on dit en Chine, il a été perdu. Et c'est comme ça que la plupart du temps, il y a des révoltes et qu'on change de, si vous voulez, de dynastie. Au Japon, le mandat du ciel, ça n'a jamais existé. Et on n'a eu qu'un seul empereur et en théorie qu'une seule dynastie depuis le début de l'existence du Japon. Vous voyez, donc quelque chose complètement différent. Vous connaissez tous en Chine, indispensable, les mandarins. Il n'y a jamais eu de mandarin au Japon. Vous voyez, donc par conséquent, on adapte. Le mieux, si on peut dire, c'est aussi, par exemple, l'écriture et la langue. La langue japonaise, c'est une langue chinoise au départ. Les idéogrammes chinois, bon, ils servent pour la langue. Simplement, les Japonais, ils ont trouvé le moyen, si vous voulez, d'arranger en quelque sorte cette langue, de lui donner une spécificité de complexité assez extraordinaire. Et du coup, aujourd'hui, si vous voulez, la langue donc japonaise est extrêmement compliquée, beaucoup plus compliquée à avaler en fait que la langue chinoise. Elle est faite de ce qu'on appelle de kanji et de kanas. Ça semble être des idéogrammes chinois, mais ça n'a strictement rien à voir, tant du point de vue de la consonance que du point de vue de l'écriture, etc. Par conséquent, si vous voulez, en gros, ce qu'il faut comprendre, et ça sera vrai jusqu'au bout et jusqu'à aujourd'hui, et ils en sont très fiers, les Japonais, ils disent qu'ils sont très doués pour accepter des quantités de choses d'autres civilisations qu'eux, mais ils ont le génie de les transformer à leur mesure, à leur niveau. C'est ce qu'ils appellent le génie japonais. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver tout le temps. Le génie japonais, ils vont avaler lors de la révolution Meiji, notre avancée, etc., et ils vont la transformer. Pas la peine de vous faire un dessin sur ce qui se passera dans les années 1950 du siècle précédent. Bon, ça sera strictement la même chose. Donc voyez quelque chose qui remonte ancien. Enfin, il y a aussi une chose qui est importante, comme ils sont isolés, ben, il y a la conscience d'une unité japonaise importante. Il y a non seulement la communauté villageoise, mais il y a la communauté japonaise dans son ensemble. Et on va voir que dans la période qui nous intéresse, il y aura une conscience nationale qui va être plus précoce et plus aiguë que dans pas mal d'autres pays, notamment d'Asie en particulier. Et ces Japonais, ça tient à quoi ? Ben, ça tient d'abord à l'unité ethnographique. En gros, on sait que les origines japonaises, bon, elles sont très discutées, oui, tout de suite, hein, mais on pense qu'en gros, ils descendent de peuples plus ou moins coréens ou de la Chine septentrionale, mais des peuples qui sont arrivés sous les dans les premiers âges de la préhistoire et qui ensuite n'ont pratiquement plus été gênés par les autres. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement, et c'est presque encore vrai aujourd'hui en grande partie, il y a très peu d'immigrants au Japon. Il y a très peu de races étrangères, etc. Les Japonais, si vous voulez, ont eu l'habitude de toujours être entre eux. Et par conséquent, donc, il y a cette unité ethnographique qui pourrait être fondamentale. Bon, c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est très difficile hein, de s'intégrer véritablement au Japon. Ils veulent bien intégrer des petites communautés, surtout si elles leur sont utiles, mais par contre, pas du tout des communautés importantes. Et ça, c'est un des gros problèmes qu'ils vont avoir à traiter maintenant, compte tenu du fait que leur démographie va leur imposer sans doute bon, une immigration. Ben, pour l'instant, cette immigration, elle est toujours pas plus souhaitée qu'elle était il y a 3 siècles ou davantage. Vous voyez. Et puis, deuxième chose aussi, c'est une originalité historique. Ben, c'est le fait que pour les Japonais, il y a toujours eu l'idéologie impériale. L'idéologie impériale qui va durer, vous savez très bien, jusqu'en 45. En réalité, c'est pas vrai. L'idéologie impériale est encore très fortement présente dans la société japonaise, surtout, y compris dans les générations jeunes. On a l'impression, si vous voulez, qu'ils s'en fichent complètement de l'empereur, mais c'est pas vrai du tout. Pour une partie qui s'en fiche, beaucoup d'autres ne s'en fichent pas du tout. Et par conséquent, si vous voulez, pour les Japonais, ils ont quelque chose d'extraordinaire qu'aucun autre pays au monde n'a eu, c'est que depuis le début de leur histoire, eh bien, le Japon n'a eu qu'une seule dynastie impériale. C'est-à-dire que le Japon a été créé par la déesse du soleil, pays du soleil levant, qui s'appelle Amaterasu, et elle a donné mission au premier empereur, qui s'appelle Jinmu, c'était 6 siècles en principe avant notre ère, eh bien, de diriger le Japon. Et l'empereur actuel, il est le descendant, si vous voulez, de ce Jinmu mythique, etc. Mais pour les Japonais, il n'y a jamais eu qu'une seule famille impériale, il n'y a jamais eu, si vous voulez, qu'une seule dynastie. Et pour eux, ça montre qu'ils sont, bah, disons, un peuple vraiment supérieur aux autres, parce qu'aucun autre peuple dans le monde ne peut en dire autant. Donc ça, ça fait partie aussi de, si vous voulez, ce qui constitue leur originalité. Alors si on regarde un petit peu, ben vous avez par exemple ici, donc justement, voilà le fameux empereur Jinmu, vous avez la déesse du soleil, donc le vent derrière qui est représenté par le disque solaire, ça va de soi, et c'est cet empereur qui est le fondateur, etc. Alors quand est-ce que ça a été fait ? faites pas de soucis, ça a été tout inventé, tout ça bien entendu, et ça a été inventé en gros entre le 6e et le 7e siècle de notre ère cette fois-ci, c'est-à-dire, vous voyez, 1000 ans après la période supposée de départ, bon, et c'est dans un livre d'histoire qui est toujours extrêmement précieux, qui s'appelle le Kojiki, et qui est véritablement les fondements, si vous voulez, du Japon, et donc de l'âme japonaise aujourd'hui. Et ça compte encore beaucoup. Bon, ce qui fait que, si vous voulez, vous voyez que le Japon, c'est déjà particulier. Alors maintenant, un petit peu plus, pour en comprendre et arriver en est, il faudrait qu'on voit un peu quelle est l'histoire japonaise, si vous voulez, en fait. Alors bon, j'ai trouvé cette espèce de bande chrono, parce que c'était un peu le seul moyen, de résumer un petit peu. Alors, le Japon, il faut bien voir qu'il a peut-être eu qu'une seule dynastie, mais alors du point de vue histoire troublée, il se pose un peu là. Hein. Il faut reconnaître que dans le genre, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, vous voyez, préhistoire et antiquité, pratiquement, ça se confond à peu près tout au Japon pour l'essentiel. Le Japon est habité depuis la préhistoire, et il a été divisé dès le départ dans ce qu'on pourrait appeler des chefferies. Et ça, ça a duré, en gros, à peu près, vous voyez, jusqu'au début de ce qu'on appelle la période Yamato, 3e siècle de notre ère. Bon, et à partir du 3e siècle, progressivement, ces chefferies ont essayé de s'unifier pour devenir, un État à peu près constitué. Alors, cette unification politique, en fait, elle commence vraiment à prendre forme à la fin de la période Yamato, c'est-à-dire à peu près au 6e siècle après Jésus-Christ. Tiens, coïncidence, c'est là en même temps qu'on trouve justement la mythologie japonaise de l'empereur Jidemu, etc., et la fameuse dynastie. C'est pas tout à fait par hasard, hein, ça fait partie justement de tous les mythes, hein, quand on veut mettre quelque chose de solide, etc. Bon, par conséquent, si vous voulez, à partir du 6e siècle, on a une monarchie qui repose sur l'influence chinoise, c'est-à-dire une monarchie qui repose sur l'écriture, sur le bouddhisme, qui repose aussi sur le confucianisme, très important à ce moment-là, et une pratique administrative plus centralisée qui s'appuie sur un culte qui est aussi apparu en Chine, mais qui a eu beaucoup moins de succès, c'est le culte Shinto. Hein, le shintoïsme, si vous voulez, c'est un culte pratiquement d'État, c'est un culte qui est en fait plus une philosophie véritablement qu'une religion, mais qui a pour essence justement de consolider les pouvoirs d'État, de consolider l'empereur d'une part et sa dynastie, et de consolider aussi tout ce qui est une force unitaire pour le Japon. Donc ça, si vous voulez, le Shinto, c'est quelque chose d'important à proprement parler. Alors, c'est pas exactement ce que je voulais, par conséquent, on reviendra après sur le Shinto. Alors, et puis, en dehors de ça, que vous dire, c'est au 7e siècle qu'apparaît donc l'empereur Amaterasu. L'empereur prend le titre de Tenno, hein. Alors, il y a aussi Mikado, mais ça, c'est plus récent, hein. Donc, mais c'est Tenno, le titre de l'empereur au sens strict du terme. Et le pays sur lequel il règne officiellement à partir, donc, de la fin de la période de Yamato, il prend le nom, donc, de Nippon, alors qu'auparavant, le pays s'appelait Yamato, tout simplement. C'est pour ça que, de temps en temps, il y a eu pas mal de bateaux, par exemple, y compris des bateaux de guerre, y compris les plus gros cuirassés dans la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelaient le Yamato, c'est pas par hasard. C'est parce que, justement, ça fait partie de cette fondation, ça remontait. Vous savez, quand Yamato est sorti, les Japonais, ils étaient quand même pas spécialement dans un bon état, donc ça faisait allusion, donc c'est cette fondation divine du Japon, etc. Donc le Yamato devait être le plus puissant de tous, etc. Vous voyez, il y a plein de, comme ça, de petits points assez intéressants. Bon, ça a été une période tout à fait importante, de splendeur, culturelle, etc. La capitale, c'était Nara pendant longtemps, et petit à petit, on a eu un transfert de cette capitale vers la capitale impériale qui va le rester, on va dire, jusqu'à aujourd'hui pratiquement, enfin jusqu'à peu, c'est-à-dire Kyoto. Hein. Mais vous voyez, c'est là où se prend forme le Japon. Alors ensuite, nouveauté, si vous voulez, à partir du 9e siècle, c'est-à-dire pendant la période Heian et la période, donc, alors c'est pas Kamamura, c'est Kamakura, bon, apparemment il y a une petite faute de frappe sur le schéma, mais enfin, peu importe. Bon, dans cette période, à partir du 9e siècle, l'influence chinoise devient de moins en moins présente. C'est entre le 6e et le 9e que les Japonais, ils ont avalé la culture chinoise et ils l'ont transformée selon leur propre génie, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, à partir de là, on a une nouvelle période de maturation. Et on rentre dans un nouveau cycle à partir du 13e siècle cette fois-ci. Hein, à partir du 13e siècle, on a cette fois-ci un Japon qui va devenir ce qu'on appelle un Japon féodal. C'est-à-dire que ça va être une éclosion, l'empereur va perdre de son pouvoir. Le shogun qui existait, je vous passe les détails, parce qu'il y avait un shogun, c'est un généralissime, qui en fait faisait, le boulot de gouvernement pour l'empereur. Il appartenait à une famille, cette famille va être renversée, et à partir de là, c'est un peu la pagaille qui se met en place. Donc c'est pour ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, comme en Chine, les royaumes combattants, les seigneurs de la guerre, vous voyez. Et donc vous avez une explosion véritablement du tissu, donc disons seigneurial et autres, et les pouvoirs sont de plus en plus confus. Résultat, cette période va durer en gros 3 siècles, hein, du 13e au 16e siècle, et elle est marquée en fait, par une série de guerres pratiquement permanente entre des seigneurs, et les seigneurs qui sont des seigneurs de guerre s'appellent des daimyo, hein, D-A-I-M-Y-O. Donc, c'est jamais au pluriel, jamais de S. Hein. Donc, des daimyos, bon, ça n'existe pas, donc des daimyos qui vont se battre régulièrement. Et la dynastie impériale, elle est au milieu de tout ça, elle est préservée. Elle est préservée, pourquoi ? Parce que le pouvoir est passé aux mains d'une féodalité guerrière, mais l'empereur est là pour légitimer, en quelque sorte, la domination tantôt de l'un par rapport à l'autre, etc. Donc l'empereur japonais reste très important, parce que bon, ben, c'est lui, finalement, qui représente, en quelque sorte, une sorte de droit suprême, donc le droit divin, etc., et donc, lui, on n'y touche pas. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'il n'a absolument aucun pouvoir, et qu'il est coincé dans Kyoto, et qu'il n'y fait pratiquement rien, à part s'occuper de religion, de culture, etc. Bon. Et pendant ce temps-là, ben, les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, les seigneurs de la guerre, chacun se taille son petit domaine, ou son grand domaine d'ailleurs, et ils s'organisent autour d'un château. D'un château, et pour ça, ben, ils utilisent bien sûr ce que vous avez vu, ben, ce personnage-là, c'est-à-dire les fameux samouraïs. Alors, samouraï, c'est ça ou le précédent. Le samouraï, c'est aussi bien être bon au sabre qu'être bon à l'arc et aux flèches, etc. Bon, c'est le samouraï, c'est le guerrier. Alors, nous, on connaît surtout les samouraïs. En réalité, les Japonais, c'est pas des samouraïs, c'est des bushi. Un bushi, c'est le guerrier. Samouraï, nous, c'est plutôt l'Occident qui a eu tendance à donner le deuxième nom du guerrier, si vous voulez, qui pour nous est devenu fondamental, ça sonnait mieux, etc. Bushi, c'était trop court, samouraï, c'était bien, ça plaisait beaucoup. Bon, alors des samouraïs, il y en a comme lui, vous en avez d'autres, et ces samouraïs sont des guerriers, qui sont des chevaliers, entre guillemets, vassaux, donc, de ces seigneurs de la guerre daimyos, et qui essayent, donc, de gagner pour leur seigneur, donc, la plus grande puissance possible. Ces seigneurs, ils construisent des châteaux. Hein, alors, je ne sais plus si j'en ai mis, j'ai dû avoir fait comme un petit défaut par ici. Voilà, des châteaux de ce genre-là, vous voyez. Et autour de ces châteaux, ça paraît relativement facile à prendre. Je vous garantis, ce n'est pas facile du tout. Hein, c'est quelque chose de très, très puissant. Hein, et par conséquent, donc surtout à l'époque, je vous rappelle, il n'y a pas d'armes à feu. Hein, donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et autour de ces châteaux, ben, vont s'installer quoi ? Ben, vont s'installer chevaliers, les fameux bushi. Et puis autour des bushis vont s'installer des artisans, des commerçants, et c'est comme ça qu'on va avoir une urbanisation du Japon. En réalité, le Japon va se couvrir de villes au fur et à mesure que les châteaux des daimyos sont installés. Vous voyez par conséquent comment les choses se passent. Alors ce qui est assez amusant, c'est que pendant cette période, les guerriers sont fondamentaux, ça paraît évident. Mais ceux qui sont fondamentaux aussi, c'est les paysans. Parce qu'à cette époque-là, les paysans, bon, on a besoin d'eux, pour la nourriture bien sûr, mais on a besoin d'eux aussi comme supplétifs, et donc ils sont armés. Ce qui fait que, par conséquent, les campagnes ont un certain pouvoir, et les bushis, les chevaliers, les daimyos, les samouraïs, ne sont pas forcément les seuls à se battre, etc. Donc, si vous voulez, ça fait un Japon qui est fortement armé, et quelque chose donc d'assez étonnant. En même temps, pendant cette période, il y a un épanouissement culturel important, c'est ce que... Alors bon, vous voyez à peu près ce que je vais vous montrer, ça c'est les combats de samouraïs classiques, hein, vous connaissez. C'est pas du tout, hein, par exemple, vous savez, les espèces de cornes qu'on a sur le casque, hein, c'est pas du tout pour la galerie, hein, ça permet d'amortir l'arrivée du sabre, hein, ou de la lance, etc. Et par conséquent, ça rip un petit peu, et du coup, vous n'avez pas un coup direct sur le casque, ça permet comme ça d'être mieux. Les armures des samouraïs sont des armures plutôt molles. Par conséquent, c'est pas lourd. Nous, nos chevaliers, ils avaient du mal à se mettre à cheval au bout d'un certain temps. Là, c'est pas le cas. Eux, ils sont tout à fait libres de leur mouvement, mais évidemment, ça protège un peu moins. Donc, il y a intérêt à bien rembourrer. Et si possible, les espèces de cornes, ben, ça limite un peu de même les espèces d'écailles de tortue qu'ils ont sur les épaules, etc. Vous voyez, ça fait glisser la lame pour l'essentiel. Lames qui sont bien aiguisées. Hein. Et ensuite, bon, ben, ça, on en reparlera juste après. Vous avez, ben, disons, quelques chefs de guerre, mais ce qu'on voit aussi comme moment culturel, c'est le théâtre No. Le théâtre No, qui n'est pas un théâtre facile, je vous dis tout de suite, hein, si vous allez assister donc une séance, bon, ça dure longtemps, hein, et c'est pas forcément évident, même si les Japonais à l'entrée vous donnent justement un petit micro et fait qu'un petit oreillette pour comprendre ce qui se dit, je garantis qu'il faut quand même tenir le choc. Hein. Bon, donc le théâtre No, c'est très intéressant, mais c'est à cette époque-là. C'était un théâtre aristocratique, c'est pour ça qu'en gros, le populo ne doit pas tellement le comprendre, logique. Bon, alors en plus, vous voyez, c'est quelque chose de très codé, avec notamment des masques. Hein. Il n'y a jamais de visage découvert. Alors, vous voyez, les masques, ce qu'ils peuvent exprimer, etc. Tantôt la colère, ça, c'est un masque de démon, hein, pas la peine de faire un dessin. Là, par contre, c'est un masque de héros, ça paraît aussi évident. Bon, vous voyez, par conséquent, donc, ça n'empêche pas une certaine éclosion. Alors, tout ça, si vous voulez, ça se termine. Ben, ça se termine, disons, à partir du milieu du XVIe siècle. Parce que là, eh ben, il va y avoir trois daimyos. Les trois que vous avez, qui vont succéder, ces trois daimyos qui vont, cette fois-ci, ben, unifier le Japon. Ça va pas être facile, hein, parce qu'il y a des quantités de seigneurs combattants, etc., et par conséquent, c'est pas si simple que ça. Mais il va y avoir un processus, donc, que ces trois daimyo qui ne sont pas du tout de la même famille vont suivre les uns après les autres pour arriver finalement à établir donc le nouveau régime politique, ce qu'on appelle la période Edo. Donc, si vous voulez, si on revient à ce qu'on était en train de voir tout à l'heure, bon, sur la période Edo qui est ici, voilà, c'est celle qui commence, vous voyez, cette époque Edo, donc qui va être très longue, hein, finalement, par rapport à celles qui se sont succédées, hein, où justement il y avait tous ces royaumes combattants. Donc c'est cette période-là qui s'installe avec ces trois personnages véritablement fondamentaux. Alors revenons à ces trois personnages, alors dans l'ordre, si vous voulez, tout va changer avec les contacts avec l'Occident. Donc, si vous voulez, c'est les Portugais, hein, qui sont un peu responsables de ce changement. Parce que les Portugais, je passe les détails, vont entre autres servir, donc, de techniciens pour fournir en armes à feu les armées de Nobunaga que vous avez ici. Puis ensuite, évidemment, celle de Hideyoshi au milieu, et enfin celle de Ieyasu, qui est celui qui va véritablement fonder, si vous voulez, le système. Alors, ces armes à feu sont tellement efficaces par rapport aux armes blanches que des quantités de batailles sont remportées, et Nobunaga, qui est ici, aux alentours de 1578 à peu près, il va réussir à unifier le Japon central. Donc, le Japon central seulement. Il n'aura pas le temps d'aller beaucoup plus loin, parce qu'il se trouve que, en 1582, alors qu'il est en pleine gloire, il y a un vassal qui le trahit, et il n'a plus qu'une seule solution, c'est de se suicider, parce qu'il n'a plus aucune porte de sortie. Donc, si vous voulez, il a commencé l'unification grâce à ses armes à feu, mais c'est inachevé. Immédiatement derrière, vous avez son principal général, qui s'appelle Toyotomi Hideyoshi. Alors, il faut savoir, si vous voulez, que ce que vous avez, là, en fait, c'est les prénoms, parce que les noms de famille, c'est en premier. Donc là, le nom de famille de Nobunaga s'appelle Oda, celui d'Hideyoshi, c'est Toyotomi, et celui de Ieyasu, c'est Tokugawa, qui va donner le nom à la dynastie. Donc là, on n'a que les prénoms. Alors, Hideyoshi, lui, son meilleur général, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend, si vous voulez, la situation où l'avait laissé son maître, en quelque sorte, et il reprend le contrôle des zones que son maître avait déjà conquises, et surtout, il arrive à mater une puissance qui était devenue très importante, c'est les puissances des temples. Et les temples qui étaient des temples armés, etc. Alors, il arrive à écraser cette puissance des temples, et en l'espace de quelques années, si vous voulez, il va dominer pratiquement tout le Japon central, mais aussi le Japon occidental. Et en 3 ans de plus encore, c'est-à-dire en 1587, il arrive à prendre le reste du Japon, c'est-à-dire le Japon oriental, le Japon septentrional. Ça veut dire qu'en 1590, pour la première fois de son histoire, si on peut dire, en tout cas récente, le Japon est unifié. Et donc, Hideyoshi est le premier, si vous voulez, maître du Japon au sens strict du terme. Alors, il ne va pas en profiter beaucoup, mais c'est pareil là aussi, c'est que ce personnage, il se retrouve avec une quantité de guerriers sous ses ordres, ça paraît évident. Et à partir de là, ces guerriers, ils sont un peu, ils sont un peu bougeons, ils ont envie de continuer à se battre. Donc, du coup, on ne sait pas trop quoi en faire. Alors, l'idée, c'est de se dire, on va devenir des conquérants, et après tout, on va rendre la monnaie de la pièce aux Chinois, donc on va aller attaquer la Chine. Et résultat, donc, Hideyoshi emmène environ 160 000 bougies, vous voyez, donc faire un tour en Chine aux alentours de 1592. Et bien sûr, entre la Chine et le Japon, il y a les Coréens. Alors, les Coréens qui sont vassaux de la Chine, mais quand même. Et les Coréens ne veulent pas entendre parler des Japonais, ils ne veulent pas les laisser passer. Du coup, les 160 000 hommes, au lieu d'attaquer la Chine, ils attaquent la Corée. Et ils la dévastent, au sens strict du terme. Ceci étant dit, les Coréens se défendent bien, et finalement, il y a tellement de pertes que Hideyoshi est obligé de revenir. Il va refaire une deuxième tentative, il va mourir pratiquement juste au moment de l'affaire, et donc ça sera fini, il n'y aura plus de sortie des troupes. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Eh bien, vous savez qu'entre les Coréens et les Japonais, c'est pas le grand amour, quoi. Beaucoup pensent que cette animosité vient de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, la fameuse sphère de coprospérité, etc. Oui, bien sûr, mais ça a été qu'un retour de ce qui s'était déjà passé. Les Coréens détestent les Japonais depuis cette période du XVIe siècle, parce qu'il y a eu une véritable catastrophe, si vous voulez, du fait de cette invasion. Donc, vous voyez, par conséquent, qu'il faut remonter assez loin pour tout ça. Résultat, Hideyoshi meurt, donc, en pleine gloire, et à partir de là, le principal vassal, qui était un peu son rival, d'ailleurs, il prend la suite. Ieyasu, par conséquent, va reprendre le pouvoir. Alors, comment il va faire, tout bêtement? Hideyoshi avait laissé un fils, mais qui était très jeune. On va se débarrasser du fils. Et puis, surtout, on va se débarrasser, de ceux qui sont gênants. Plus précisément, non, c'est pas dans ce bon sens. Donc, on va se débarrasser de, disons, des autres vassaux qui refusent pour l'instant donc la tutelle de Tokugawa. Alors, voyez en gros ce que ça représente. Hein, ici, vous avez Hideyoshi en armure de combat, hein, à cheval, etc. Voyez ce que ça donne. Là, c'est Tokugawa, donc Ieyasu, qui va être le vainqueur suprême. Et donc, vous avez une immense bataille, qui est la bataille de Sekigahara. C'est la bataille fondamentale, une des dates fondamentales du Japon, qui a lieu, si vous voulez, donc en 1600. Donc c'est facile à retenir, 1600, cette grande bataille. Et là, tous les vassaux, si vous voulez, qui s'opposaient, en quelque sorte, tous les seigneurs de la guerre, tous les daimyos qui s'opposaient à Ieyasu, sont écrasés. Par conséquent, il n'y a plus d'opposition. Alors, on voit d'ailleurs, alors ça, si vous voulez, tout ça, ça vous paraît un peu bizarre, ces trucs blancs, c'est simplement les plis des paravents. Hein, c'est des paravents, donc on a représenté comme ça donc les batailles pour avoir un souvenir, et c'est comme ça qu'on se rend compte un peu comment les gens étaient équipés. Alors, voyez, par exemple, c'est là où on voit ce qui a fait la différence, voyez, les armes à feu, ici. Vous voyez que là, on voit bien ceux qui tirent, bon, et puis repasser, vous voyez aussi ces espèces d'étendards comme ça. Ben, ça fait partie de. Ils sont dans le dos, si vous voulez, de ceux qu'on appelle les porte-étendards, et ça fait partie des principaux guerriers, des meilleurs, sur lesquels, ben, justement, le daimyo s'appuie. Et Tokugawa Ieyasu va s'appuyer de la même façon, si vous voulez, sur ces gens-là aussi. Donc, vous voyez, par conséquent, comment, petit à petit, on prend le pouvoir. Alors, du coup, ben, il n'y a plus qu'une chose à faire. 1600, il n'y a plus d'opposition. Alors, on a oublié, il y a l'empereur qui est toujours par là, lui, il compte les coups, hein, d'une manière générale, il est toujours à Kyoto, il ne fait rien. Eh bien, en 1603, il voit arriver, par conséquent, Tokugawa Ieyasu, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il accepte de le nommer shogun, par conséquent, généralissime, c'est-à-dire qu'il lui donne l'essentiel de ses pouvoirs. Alors, simplement, Ieyasu, il n'est pas tout à fait, ben, disons, né de la dernière pluie, et il a vu ce qui s'est passé pour ses deux prédécesseurs, Nobunaga et puis Hideyoshi. Et il a vu qu'ils n'avaient pas pu mettre la famille, leur famille, disons, comme successeur. Alors, lui, il prend sa précaution, et immédiatement, il prend une position qu'on a souvent au Japon. Il se met comme shogun retiré, c'est-à-dire qu'il est shogun, mais un shogun qui se met en arrière, et il fait nommer par l'empereur son fils, tout de suite. Résultat, à partir de là, lorsqu'il va mourir, effectivement, ben, il n'y aura pas de problème, sa famille va immédiatement récupérer, si vous voulez, le pouvoir. Par conséquent, donc là, avec cette bataille de 1600 et l'arrivée au pouvoir du shogun Ieyasu en 1603, ben, c'est ce qu'on appelle la période des temps modernes qui commence. Bon, c'est la période Edo au sens strict du terme. Vous voyez à peu près comment on est arrivé là. Alors maintenant, bien sûr, alors vous voyez des châteaux, bon, après, il en fait construire plusieurs, pas à peine faire à dessin, c'est comme Richelieu, hein, si vous préférez. Les châteaux des autres, il les fait détruire, et par contre, lui, il construit ses châteaux aux endroits stratégiques, évidemment, pour pouvoir dominer donc le secteur. Bon, paraît logique. Bon, voilà donc des châteaux parmi les plus puissants qu'on puisse trouver. Alors maintenant, voyons voir un petit peu le pouvoir des shoguns Tokugawa. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir qui se met en place? Alors, le pouvoir qui se met en place en question, c'est simple. Ben, d'abord, il ne va pas se mettre en place à Kyoto, parce qu'il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Hein. Kyoto, c'est l'empereur. Par conséquent, donc, on ne peut pas aller se mettre là-bas. Ce n'est pas possible. Donc, l'empereur, ça va être le pouvoir spirituel, mais le shogun, c'est le pouvoir temporel. Donc, à partir de là, ben, il se trouve que Hideyoshi, qui se méfiait de son vassal Ieyasu à l'époque, l'avait exilé un peu très loin au Japon, à Edo, justement, la future Tokyo. Et puis, en réalité, ben, Ieyasu s'est trouvé pas mal dans la région, il a trouvé que stratégiquement c'était bien placé, donc il décide purement et simplement de construire sa capitale, donc à Edo, donc la future Tokyo. C'est comme ça, si vous voulez, que la ville d'Edo, qui n'était qu'un bled infâme ou à peu près, apparaît véritablement dans l'histoire japonaise. Et là, évidemment, lui et ses successeurs, fils, etc., vont s'appliquer à construire, si vous voulez, donc ben, le château impérial, enfin le château shogunal plus précisément, jusqu'à faire un château absolument colossal. Et aujourd'hui, le palais impérial, si vous allez à Tokyo, qui se dresse justement dans le grand parc autour du palais impérial, bon, ça se visite quasiment pas, hein, il faut pas se faire d'illusions. Si vous voulez un jour avoir l'occasion d'y aller, il faut demander par votre ambassadeur, au moins un an à l'avance, et encore, c'est loin d'être garanti. Bon, et vous verrez qu'une petite partie. Mais c'est magnifique, ce château. On le voit pas, on voit que des murs, mais c'est magnifique. Et il est une toute petite partie, il représente, alors qu'il est immense, la place qu'il tient, à peu près le sixième de ce que le château des Tokugawa représentait. Vous voyez, par conséquent, histoire de montrer la puissance, etc., et donc tout ça. Ensuite, deuxième chose, bien sûr, eh bien, il faut régler le problème de l'empereur. Donc là, Ieyasu va faire une ordonnance en 1615 sur l'empereur et les nobles qui l'entourent, qui sont des nobles particuliers, en leur disant, ben pour vous, c'est la religion, c'est les lettres, c'est les arts traditionnels, ça c'est votre domaine. Donc Kyoto devient capitale religieuse, mais aussi culturelle du Japon, par ordonnance, d'une certaine façon. Et puis, de l'autre côté, ben, la capitale réelle administrative, ben, ça sera celle du shogun, bien évidemment. Le shogunat est devenu héréditaire, bon, par conséquent, il n'y a pas de problème particulier. Alors, voyez là, ce qu'on voit ici, c'est une gravure japonaise, hein, qui essaye de montrer un petit peu comment ça se présente. Alors, ils n'ont pas tout à fait compris, parce qu'ici, sur le trône, vous avez l'empereur, donc, du Japon, hein, alors, représenté à la manière un peu occidentale, vous voyez, ça fait un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et puis, vous avez ici celui qui se prosterne, c'est le shogun. Ça, si vous voulez, c'est l'image qu'en ont les Hollandais. Évidemment, c'est complètement faux. Hein. Bon, effectivement, il va se prosterner, mais ça n'a rien à voir. Mais voilà un peu comment on voit, si vous voulez, l'organisation côté Occident. Alors, le shogun, lui, il perd pas de temps. Bah, c'est un militaire, hein. Il est généralissime, mais c'est un vrai militaire. Il a quand même gagné sa place au combat. Donc, il va mettre en place un gouvernement qui s'appelle le Bakufu. Littéralement, ça veut dire le gouvernement de la tente. C'est-à-dire le gouvernement qu'on mettait en temps de campagne, etc. Donc, vous voyez, un gouvernement resserré, un gouvernement très puissant. Bon, on ne va pas discuter grand-chose, hein, et par conséquent, un gouvernement qui va avoir beaucoup de poigne pour essayer de tenir ce Japon à peu près comme il faut. Donc, voilà à peu près donc comment ça se présente. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, lui, il va réorganiser complètement la féodalité. Il y avait des seigneurs de la guerre, bon, ben, c'est bien, mais ces seigneurs de la guerre, ils ont pris trop de pouvoir. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? On va les surveiller de très près, et on va leur réattribuer à chacun un fief. Ils en avaient déjà. Bon, ben, ceux qui ont disparu de la guerre, on va les donner à d'autres, du moins les plus fidèles. Et puis ceux qui n'étaient pas d'accord et qui ont combattu, mais ont été battus à Sekigahara, eh bien, ceux-là, on va leur réattribuer leur fief, mais moyennant, bon, ben, disons, un certain nombre de conditions de surveillance diverses et variées. Donc, ils réorganisent complètement la féodalité, donc japonaise. Alors, maintenant, comment faire ça? Eh ben, pour lui, ça ne va pas être une question d'hectares. C'est possible. Pour de dire, ben voilà, ton fief, ça sera tant d'hectares, ou l'équivalent en japonais, c'est le sho. Bon, ça représente pas tout à fait un hectare, mais peu importe. Mais c'est pas ça qui intéresse. En fait, ce qui intéresse, c'est la richesse. C'est la richesse des terres des seigneurs de la guerre, et la sienne propre. Donc, il va imaginer, ou plutôt, il va poursuivre, un cadastre, en quelque sorte, une sorte de cadastre, que Hideyoshi, avant lui, avait commencé à faire. Qu'est-ce qu'il s'agissait de faire? Il s'agissait d'arpenter tout le Japon, mais pas tellement de l'arpenter au niveau surface, de l'arpenter au niveau valeur de la terre. Et ça signifie par conséquent qu'on va prendre une mesure assez particulière, qui est la mesure qui s'appelle le koku, K-O-K-U. C'est une mesure de riz. Ça veut dire que ça contient 180 litres de riz, ce koku. Et ces 180 litres de riz, en gros, c'est à peu près la quantité de riz qu'un Japonais normalement constitué mange en une année. Et à partir de là, on va non pas évaluer les terres et donc la valeur des fiefs en hectares ou ainsi de suite, mais en quantité de koku qui sont productibles sur la terre en question. Et on va donc dire, ben, cette terre fait tant de milliers de koku, tant de dizaines de milliers de koku, et donc le fief qui s'étend sur toute cette surface, ça va faire tant de koku au total. Vous voyez, quelque chose d'assez particulier. Ceci étant dit, tout le monde ne fait pas que du riz, c'est évident quand même. Bon, ben, c'est plus simple, on ramène tout au riz. Donc, quelle que soit la culture, eh bien, on dit qu'est-ce que ça fait comme équivalent koku de riz, et puis c'est comme ça qu'on fait. Donc, vous voyez, on fait, en gros, d'une pierre deux coups, on fait à la fois un arpentage, donc on a un cadastre, et en même temps, on a un cahier des redevances, parce qu'évidemment, ça va servir à payer les impôts, pas vous faire d'illusions. Hein. Donc, vous voyez, par conséquent, comment on fait en même temps. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce système-là, qui est quand même un peu archaïque, il faut bien vous reconnaître la chose, en 1867, lorsque tout s'écoulera, il sera encore en vigueur. Alors qu'il y en aura une économie monétaire partout, eh ben, on comptera encore en koku de riz. Vous voyez, par conséquent, ça veut dire que la période qu'on met en place est une période très intéressante, mais d'un autre côté, c'est une période qui va être aussi assez immobile par la force des choses et qui, du coup, n'évoluera pas assez vite. Donc ça, c'est aussi un problème. Bien, alors, une fois que on a le rapport théorique des terres déterminé en koku, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on évalue les redevances des paysans, tiens, bien sûr. Et alors là, on va pas y aller avec de main morte. Hein. En gros, les paysans devront payer à peu près, par communauté, hein, naturellement pas individuelle, la communauté paysanne d'un village, etc., 40 à 60% de ce qu'elle produit. Vrai que par conséquent, c'est pas tellement sympathique. Alors à partir de là, bien sûr, on s'est rendu compte que les paysans, ils risquaient de se révolter. Et Hideyoshi, qui était le premier à mettre en place cette espèce de cadastre, il a eu l'idée géniale de faire ce qu'on appelle à l'époque la chasse au sabre. C'est-à-dire récolter, et puis surtout priver, donc, de tout armement, les paysans. C'est-à-dire qu'en l'espace de 30 ans, tous les paysans vont être désarmés, tous les sabres, etc. C'est-à-dire que le paysan va se retrouver dans une situation de sujétion complète. Il va, si vous voulez, passer d'un supplétif, il n'a jamais été un commandant, d'un supplétif des samouraïs, des bushis ou bien des daimyos, à quelqu'un qui n'a plus qu'une seule condition, finalement, c'est produire pour que les autres puissent manger et surtout payer des impôts, etc. Et il n'aura pas droit du tout à la parole. Il y a une phrase qui est assez symptomatique. Et on dit de la condition des paysans, qui sont pourtant bien sûr les plus nombreux au Japon, on dit bien qu'ils ne meurent pas, mais qu'ils ne jouissent pas de la vie. Ça ne peut pas être plus clair. Vous voyez, par conséquent, donc, en gros, là, ils vont, disons, trinquer, hein, par rapport, donc, au système qui est à se mettre en place. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, il reste une chose à faire, c'est mettre en place la hiérarchie féodale. Et ça va se compter facilement. Plus vous êtes puissant, plus vous avez de cocos, moins vous êtes puissant, moins vous en avez. Et à partir de là, ben, on va dire, un daimyo, c'est à partir de tant de cocos dans son fief, etc., etc. Alors, ça donne quelque chose. Bon, alors, passage quand même. Tokugawa Ieyasu, c'est-à-dire celui, une fois dans sa pleine gloire en quelque sorte, hein, celui qui fonde le système. Bon, et puis ça, c'est un de ses fils. Hein, et là, alors, vous voyez, c'est le Japon, donc vers 1860, peu importe. Mais si vous voulez, c'est pour vous montrer un peu les fiefs. C'est-à-dire que vous avez des fiefs, vous voyez, qui sont en blanc. C'est tout ce qui appartient aux daimyo qui sont, bah, disons, les plus éloignés, ceux qui sont les moins ralliés. Donc, au shogun. Et tout ce qui est, par contre, voyez, en gris, comme ça, ou alors en hachure, en gros, pour l'essentiel, c'est ce qui appartient comme fief au shogun en propre, ou bien, ben, disons, à sa famille proche. Vous voyez que, par conséquent, il s'est quand même choisi une bonne part de l'ensemble. Et puis, vous voyez, surtout, c'est séparé. Regardez, par exemple, où sont ces parties du domaine. D'abord, bon, il y a le domaine central, comme ça, c'est on contrôle tout. Mais là, ceux qui sont les plus remuants, c'est les daimyo du sud. Résultat du course, par conséquent, vous voyez, on fait du mitage, en quelque sorte. Hein. On met des possessions du shogun ou bien des daimyos fidèles au milieu de ceux qu'on craint un petit peu. Vous voyez, divisé pour gagner, quoi, c'est classique et habituel. Mais c'est assez bien pensé. Alors maintenant, ben, il faut s'accrocher un peu, c'est, disons, la structure sociale du système. Hein. Alors, la hiérarchie féodale, en quelque sorte. Alors d'abord, cette hiérarchie féodale, ben, disons que, vous voyez que la pyramide est très simple, à la tête le shogun. Mais il y a quand même, dans cette pyramide, deux cas, on va dire, hors pyramide, hors hiérarchie. Le premier qui est hors hiérarchie, je l'ai rajouté rapidement sur le système ici, c'est l'empereur. Vous voyez ? L'empereur, alors lui, il est à Kyoto, il est hors hiérarchie, puisque lui, de toute façon, bah, c'est le pouvoir divin, donc ça ne peut pas se mettre dans une pyramide, quelle qu'elle soit. Bon, il est au-dessus de tout, si on peut dire. Il n'a aucun pouvoir, mais au-dessus de tout. Autour de lui, il a une noblesse de cour qui est spécialisée, très lettrée, etc., qui est souvent très pauvre d'ailleurs, qu'on appelle les Kugeu, qui sont à part, il y a une 150 familles, bon, et qui sont des familles prestigieuses, pauvres mais prestigieuses, bon, parce qu'elles servent l'empereur, et de temps en temps, quand on a un gros ennui pendant la période shogunale, quelquefois on va chercher un de ces nobles de cour pour lui demander d'avoir une fonction particulière qu'on verra après. Bon, par conséquent, ces gens-là sont à part, simplement l'empereur, faut bien qu'ils vivent. Alors, en gros, il faut savoir que pour l'ensemble des cocos du Japon, en gros, il y en a pour à peu près 30 millions. Vous voyez, 30 millions de cocos, donc, pour l'ensemble du Japon. On est sympa avec l'empereur, on lui en donne 100 000. C'est-à-dire pas grand-chose. Donc, 100 000, ça lui permet de vivre, c'est sa liste civile, quoi, d'une certaine manière. Ça lui permet de vivre, mais pas à peine faire un dessin, c'est pas avec ça qu'il va entretenir une armée. Avec ça, il peut même pas entretenir son palais. Donc, du coup, le palais, ben, ça sera le shogun qui, à ses frais, le fera entretenir. Bon, ça veut dire que l'empereur, ben, il va pas pouvoir bouger ni pied ni patte, comme on dit, hein, sans qu'on se rende compte qu'il est en train de faire quelque chose. Donc, l'empereur, prestigieux, mais complètement à part. Alors là, hors circuit. Le shogun, c'est, vous l'avez compris, il est là, au sommet de la pyramide, mais il est pas dans la pyramide, donc il est hors circuit, hors cadre, et bien entendu, c'est le véritable maître du Japon. Alors, son pouvoir est militaire, je rappelle, shogun, c'est dire généralissime, mais son pouvoir est d'abord et avant tout économique. Il faut bien voir ça. En gros, son fief, si vous voulez, représente à peu près, en comptant, si vous voulez, sa famille proche, 7 millions de cocos. Vous voyez ? Donc, par conséquent, ça peut aller, quoi. Donc, il a ça. Alors, 7 millions de cocos, ça représente les deux tiers à peu près de son budget, parce qu'il a l'habileté, pour bien coincer tout le monde, de se réserver le produit des mines d'or et d'argent, qui sont très importantes, et le produit de tous les ports de pêche ou de commerce qui existent, si vous voulez, donc au Japon. Ce qui fait qu'il a une richesse colossale, et à partir de là, bien sûr, il peut se permettre de donner des fiefs à qui il veut, bon, puisqu'il a de toute façon pratiquement, on va dire, la moitié de la richesse japonaise à lui tout seul. Vous voyez ? Donc comment se présente le cocu finalement ? Alors, ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que, son domaine, si on revient sur le schéma d'avant, son domaine, vous voyez, il est stratégiquement placé, parce que ses principaux fiefs, inclut, si vous voulez, les principales villes Donc Osaka, Nagoya, etc., Kyoto, pas Kyoto, pardon, parce que c'est l'empereur, mais Edo, vous voyez, toutes les villes qui sont les plus importantes, celles qui sont les plus riches, celles qui sont les villes, on va dire, stratégiques. Et puis, il contrôle aussi tous les points stratégiques du Japon. Et à partir de là, bien sûr, comme il sait que tout le monde ne sera pas forcément content, eh bien, il met en place tout un réseau de routes, qu'il appelle des routes stratégiques, mais qui vont avoir, à travers le pays, un rôle très important, parce que ça va être des routes extrêmement utiles pour tout ce qui est commerce, etc., transport et autres. Alors lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des routes stratégiques, il met des postes de police, des postes militaires partout, et comme ça, il peut contrôler sans problème le Japon. Donc, vous voyez, c'est vraiment donc une pyramide militaire, si on peut dire. Alors, après, en dessous, du shogun, vous avez, vous voyez, deux cas de figure, on va dire, assez différents. Vous avez ceux qu'on appelle les nobles, ou bushi, vous les avez ici, vous les retrouvez là. Bon, ou ce qu'on appelle, nous, les samouraïs, ça représente à peu près 7% du total de la population. Et vous voyez qu'ils sont eux-mêmes divisés en pas mal, disons, de catégories différentes. Alors, vous avez ceux qu'on appelle les daimyo, vous voyez que vous avez là, donc les fameux seigneurs de la guerre, ceux qui ont été matés à Sekigahara ou qui se sont ralliés, donc, à Ieyasu. Alors, vous voyez, on est un daimyo quand on a plus de 10 000 koku dans son fief. En réalité, on est un daimyo plutôt aux alentours de 50 000, 100 000, et vous avez certaines familles de daimyo, y compris des daimyo, disons, relativement indépendants, qui ont 700 000 koku. Vous voyez, par conséquent, ça représente quand même une certaine fortune. Bon. Et vous avez deux types de daimyo. Alors, vous avez ceux qu'on appelle les daimyo de l'intérieur et ceux qu'on appelle les daimyo de l'extérieur. Alors, les daimyo de l'intérieur s'appellent les fudai daimyo, et ceux-ci ont été ralliés au Tokugawa avant 1603, c'est-à-dire avant de se faire écraser à la bataille de Sekigahara. Donc, c'est ceux qui ont senti le vent au bon moment. Alors, ceux-là, ils sont considérés comme étant les fidèles parmi les fidèles, et ils ont donc tous les avantages. Donc, on leur fait confiance, ils ont de très bons fiefs, etc. Et surtout, on leur donne des responsabilités importantes, par exemple, dans l'administration, donc du Japon, l'administration du shogun. Donc là, c'est vraiment les fidèles. Au-dessus, vous avez un petit, vous voyez, un petit point, ça s'appelle ce qu'on appelle les shinpan, mais peu importe. C'est en réalité la famille éloignée ou relativement proche, donc des Tokugawa. Alors là-dedans, vous avez une famille que les Matsudaira, etc., peu importe. Mais c'est ceux sur qui on peut s'appuyer vraiment. Donc c'est eux qu'on va prendre au conseil, etc. Là, le shogun sait qu'il peut leur faire une confiance absolument aveugle. Donc ça, c'est les daimyo de l'intérieur. Alors ceux-là sont bien servis. Les autres aussi sont bien servis, mais c'est les daimyo de l'extérieur, ce qu'on appelle les tozama. Et eux, ils se sont ralliés au Tokugawa après Sekigahara, c'est-à-dire qu'eux, ils étaient contre. Donc eux, on leur fait absolument aucune confiance. Ce qui fait qu'eux, ils ont l'avantage d'avoir des fiefs, mais ceci étant dit, ils n'auront pas de responsabilité dans le Bakufu, c'est-à-dire dans le gouvernement du shogun. Et ça durera jusqu'en 1867. Ils sont en plus méridionaux, donc vous imaginez qu'ils vont vraiment avoir les dents qui rayent de parquet pour prendre le pouvoir un peu plus tard. Ils piaffent d'impatience, c'est assez clair, au bout d'un certain temps. Et si vous voulez, surtout qu'ils sont très surveillés. Alors, ces tozama daimyo, comme on les appelle, ou daimyo du dehors, comme vous voyez, eh bien, leurs fiefs, vous avez compris, sont généralement à proximité de ceux du shogun, ou alors à côté de fudai daimyo, de ceux qui sont très fidèles, histoire qu'ils soient vraiment bien coincés, un petit peu comme la tranche de jambon dans le sandwich, quoi, pour l'essentiel. Bon. Et puis, autre chose aussi relativement importante, c'est qu'on met en place, si vous voulez, dans cette féodalité, il y a les droits et les devoirs. Donc, les tozama daimyos et les daimyos en général ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Et parmi les devoirs, il y a justement ce qu'on appelle ici le sankin kotai, c'est-à-dire le devoir de résidence alternée à Edo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous voulez, que c'est un peu ce qu'avait fait d'une manière un peu plus légère ce brave Louis XIV, qui de temps en temps aimait bien avoir sous la main les nobles de cour pour empêcher qu'ils aient de mauvaises idées. Là, simplement, c'est beaucoup plus systématique. C'est-à-dire que tous les daimyos, qu'ils soient d'ailleurs fudai ou qu'ils soient tozama, eh bien, ces daimyos doivent passer un an sur deux à Tokyo, enfin à Edo, avec leur famille, etc. Et ils ont le droit de retourner dans leur domaine un an sur deux. Mais femmes et enfants restent toujours à Edo. C'est-à-dire que c'est des otages, ni plus ni moins. Donc vous voyez que par conséquent, donc, à partir de là, les choses sont quand même, ils sont très surveillés. Ils ont quand même un service aussi, alors comme nous on appellerait ça au Moyen-Âge un service d'host, un service d'armée, ils peuvent être convoqués. Bon, de toute façon, il n'y a pas de bagarre, on reste tranquille. Vous avez compris, avec le système qui est en place, les guerres privées, tout ça, c'est fini. Par contre, et puis comme le Japon va s'isoler, on est vraiment dans une période de calme intégrale. Donc, ils vont plus servir à grand-chose. C'est pour ça que je vous disais, les armures, les épées, ça va servir d'ornement, mais plus du tout dans la réalité. Bon, eh bien, ces gens-là, avec le Sankin Kotai, en plus, on a tout prévu. Parce qu'on leur dit, attendez, vous passez un an à Edo, mais c'est pas nous qui payons, c'est vous qui payez tous vos frais. Donc, il faut que vous ayez une résidence à Edo, plusieurs maisons, si possible, en fonction de l'importance de votre fief, d'ailleurs du nombre de koku que vous avez. Il faut que vous ayez donc un grand personnel en même temps, et il faut par la même occasion que vous distrayiez. Donc du coup, que vous dépensiez. Donc on va créer des quartiers de réjouissance. Hein. Alors c'est pas des quartiers de prostituées, hein, c'est les geishas, je vous rappelle, ça n'a rien à voir avec les prostituées au total, mais c'est des quartiers où on va jouer, c'est des quartiers où on va aller au théâtre, on va d'ailleurs inventer de nouvelles formes de théâtre, etc. Ça leur coûte un maximum, quoi, c'est clair. En plus, il faut qu'ils fassent tout le trajet sur les fameuses routes stratégiques, où ils doivent payer un certain nombre de choses avec toute une suite. Bon, ça veut dire que ça, c'est le symbole. Bon, pendant qu'on y était, vous voyez, je vais vous montrer, ça, c'est le symbole, le tori, c'est le symbole des temples shinto. Hein. Et puis, le temple shinto, vous l'avez ici. Bon, on va passer, passons. Alors, voilà un exemple de Sankin Kotai. Ça, vous avez un daimyo qui vient avec toute sa suite et qui doit montrer qu'il a une certaine fortune et donc qui vient passer son temps ou repartir ensuite sur ses routes stratégiques. Vous imaginez ce que ça va donner sur une stratégie qui va y avoir plein d'auberges, il va y avoir plein de choses. C'est-à-dire que ces routes stratégiques qui, au départ, étaient des routes de surveillance vont devenir des routes absolument, un véritable appareil sanguin fantastique, si vous voulez, pour l'économie japonaise et pour ceux qui vont en profiter petit à petit, les marchands en particulier ou les artisans. Bon, même scénario, vous voyez, on voit l'arrivée ici, donc de cette délégation qui arrive dans la maison, entre guillemets, dans le palais que donc le daimyo doit finalement construire, etc., et occuper. Bon, ils sont donc, on va pas dire ruinés, mais ça leur prend tellement d'argent que, comme il faut bien qu'ils aient dans leur domaine à eux aussi une petite administration, etc., ils n'ont plus du tout les moyens d'avoir une véritable armée. Ce qui fait qu'à partir de là, ils ont bien des samouraïs, ils ont bien des gens qui vont les aider, une petite force, on va dire, de quasi-police, etc., mais en aucun cas une force qui soit capable de disputer un quelconque pouvoir au shogun. Vous voyez, c'est tout à fait bien fait, si l'on peut dire. Le séjour alterné, c'est vraiment quelque chose de tout à fait idéal. Alors, vous avez compris, les paysans, ils sont désarmés, et puis les daimyos sont pratiquement désarmés aussi, quoi. Donc c'est très bien fait. Donc à partir de là, les Tokugawa ont vraiment réussi un coup phénoménal, si on peut dire. Alors voyez, après, si on finit la pyramide, vous voyez ce que ça donne. Vous avez ensuite en dessous des daimyos. Alors j'ai oublié de vous dire, ils sont à peu près dans les 280 au total, les daimyos au final. Tous compris, y compris les fudai comme les tozama, tout le monde. Bon, ensuite vous voyez ce que vous avez en dessous. Vous avez les samouraïs au sens strict du terme. Alors c'est ceux qui ont moins de 10 000 koku, forcément. De fief. Et alors là, on les divise en deux parties. Vous voyez, c'est vraiment en fonction du mérite. Vous avez ceux qui sont les samouraïs du shogun. Alors ceux-là, il y a les Atamoto, portant d'armes, vous savez, ceux que je vous ai dit qui avaient le drapeau dans le dos, etc. Donc ça, c'est les guerriers d'élite, etc. Alors eux, ils ont plus à se battre, je vous dis tout de suite. Mais par contre, ils sont très prestigieux. Et c'est eux qui vont fournir toute l'administration moyenne et subalterne du Bakufu. Vous voyez, ça, c'est ce qu'ils ont gagné. Et ils ont un privilège énorme. Ils ont un accès pratiquement direct au shogun s'ils le demandent. Vous voyez, pour histoire de bien montrer que c'est vraiment les fidèles, là encore, d'entre les fidèles, mais en dessous des seigneurs, au sens strict du terme. Puis après, vous avez les gens du zone d'action, c'est la cour domestique, du shogun, ni plus ni moins. Et puis en dessous, vous avez les samouraïs des daimyos, tous ceux dont je vous parlais, qui sont leurs guerriers, leurs forces de police, enfin, etc., j'en passe, ou leurs administrateurs. Voilà, en gros, comment ça marche. Tout ça, ça fait 7%. Vous voyez, à peu près, donc, que c'est assez bien fait, finalement. Ensuite, vous avez en dessous, en dessous, en fait, pour l'instant, on va les laisser tomber 2 minutes. Et puis, on va voir avant quand même, puisqu'on a encore un petit peu, voir un petit peu comment ça fonctionne, ça. Parce que puisqu'on a parlé de ceux qui dirigeaient, voyons comment fonctionne le gouvernement. Ce que vous avez sous les yeux ici, c'est le Bakufu. Hein, c'est-à-dire ce fameux gouvernement de la tente, etc. Alors là encore, à part complètement, vous avez compris, l'empereur. L'empereur, donc, ou Tenno, à Kyoto, autorité théorique, prestigieuse, etc. Mais lui, on s'en fiche pour l'essentiel. Bon. Ensuite, le pouvoir militaire, le shogun. Alors, voyez, le gouvernement tel qu'il est fait, il est assez précis, finalement. Donc, le généralissime. Et ce généralissime s'appuie pour gouverner sur un conseil. Ce qu'il faudrait que vous compreniez, c'est que, l'empereur, d'une part, il existe, il demeure le souverain, quand même. C'est-à-dire que le shogun ne pourra jamais aller emprisonner l'empereur. Ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Bon, c'est le souverain, il est intouchable a priori. Ceci étant dit, c'est tout ce qu'il peut faire. Le shogun qui est à l'empire, on pourrait dire que, vu ce que je dis, il a tous les pouvoirs. C'est un dictateur. C'est pas vrai. Parce qu'il y a, si vous voulez, son pouvoir n'est pas tyrannique. Il a en fait un certain nombre de modérateurs qui viennent, si vous voulez, un peu compenser. D'abord, il ne peut pas tout faire et tout voir. Je vous rappelle qu'à l'époque, on n'a pas les moyens techniques de transport et autres de tout contrôler, de tout connaître. Donc, il faut bien qu'il s'appuie sur des quantités de gens, sur son administration. Donc, il est aidé en particulier par le conseil des anciens, qu'on appelle le roju, si vous préférez, roju, parce que en japonais, c'est toujours ou. Hein. Donc, ce conseil des anciens, il a un chef qui est apparu au XVIIIe siècle, et on va dire que c'est le gouvernement, quoi. Et donc, c'est un conseil, mais c'est plus qu'un conseil. Il aide évidemment le shogun à prendre des décisions, mais en dehors des shoguns de la première époque, comme Ieyasu, qui sont vraiment avec un pouvoir énorme et qui ont une très grande, amplitude d'idées et tout ça, après, les shoguns, ils ont tendance un peu à se laisser vivre, quoi. Et en réalité, c'est le conseil des anciens. Alors ça, c'est les daimyos les plus fidèles, donc les daimyos intérieurs qui composent ce conseil. À côté, vous avez les jeunes anciens. Bon, les jeunes anciens, ils sont effectivement un peu plus jeunes, en fait, pas tellement plus. Simplement, c'est des daimyos qui sont moins riches. Et on estime que, comme ils sont moins riches, ils ont des idées un peu plus différentes des autres, quoi. Donc, ça permet comme ça de mettre un petit peu de diversité. Bon, et puis, en dehors de ça, surtout ce qui est important, vous avez cette zone-là. Je l'ai simplifié, c'est pour ça que j'ai écrit. C'est ce qu'on appelle la zone des Metsuke. Ça, c'est l'administration, ni plus ni moins. Alors là, vous avez ce qu'on appelle des Bugyo. Bugyo, ça veut dire ministre, ça veut dire gouverneur. Et donc, vous avez des bugyos centraux. Ici, alors, il y en a un qui s'occupe des finances, des cultes. Enfin bon, il y en a toute une série, hein, un gouvernement vraiment d'administrateurs. Et puis, vous avez en plus de ça des bugyos, ce qu'on appelle civils, qui sont des gouverneurs et qui vont vérifier que les impôts rentrent bien, que tout se passe bien, etc., dans le shogunat, etc. Alors, ces gouverneurs civils sont toujours par deux, hein, parce qu'il faut que l'un surveille l'autre, etc. Hein. C'est un peu comme les missi dominicis, vous vous rappelez du temps de Charlemagne. Bon, c'est un peu le même principe. Bon, donc là, on surveille, etc. Et puis, vous avez les daimyos, c'est le pouvoir féodal, mais on a vu que c'est un pouvoir théorique. Alors, il y a cette espèce de machin au milieu, le grand ancien, ou Taro. Alors, lui, vous voyez, il est en pointillé, pour la bonne et simple raison que quelquefois, quand même, il y a des problèmes dans l'Empire, enfin, du moins dans le shogunat. Des problèmes, le shogun n'est peut-être pas tout à fait à la hauteur de la tâche, et puis il peut y avoir des catastrophes naturelles, etc., tremblement de terre. Alors dans ce cas-là, on prend l'habitude de nommer quelqu'un qui est une sorte de dictateur, qu'on appelle le grand ancien, le Taro, et c'est celui-là qu'on va chercher dans les familles des nobles de cour qui sont à côté de l'empereur. Parce que il est près de l'empereur, donc il a une dimension un petit peu plus divine, parce qu'il est meilleur, et puis aussi parce qu'il est moins dangereux. Lui, de toute façon, il est pauvre, donc on sait qu'il n'aura pas une ambition dévorante. Donc, mais par contre, on sait qu'il est intelligent, on sait aussi que c'est un sage, plus que les anciens. Et donc, du coup, lui, alors là, c'est un vrai dictateur. C'est-à-dire que ses décisions s'appliquent, y compris par rapport au shogun. Donc, vous voyez que, alors c'est rarissime que ça se produise, mais c'est pour vous dire que le shogun, il n'a pas tous les pouvoirs au sens strict du terme. Bon, voilà en gros à peu près comment ça marche. Voyez, un petit peu ce système-là. Alors, revenons maintenant au fonctionnement féodal, c'est-à-dire au reste de la pyramide, au reste de la hiérarchie sociale. S'il y a encore une chose que vous sachiez, parce que sinon on s'en sortira pas. Dans le fonctionnement féodal, il y a aussi quelque chose à comprendre, c'est les rapports féodaux. Parce que vous avez compris les rapports de puissance, de richesse, etc. Il n'y a pas que ça. Il faut voir aussi que les rapports féodaux sont réglés très différemment de notre féodalité à nous. Nous, notre féodalité, c'est le contrat, c'est, rappelez-vous, le prestation de serment, etc. Bon, le don d'un brin de céréales, etc. Enfin bref, bon, c'est quelque chose de précis. Là, pas du tout. Si vous voulez, les rapports féodaux sont réglés par la morale. C'est-à-dire, en gros, par la morale du devoir que véhicule le confucianisme. Et pas n'importe quel confucianisme, parce que t'es bien placé, Michel, pour savoir que, il y a pas mal d'écoles. Bon, là, c'est l'école de Shuxi. Philosophe chinois qui est vers 1130-1200, c'est-à-dire un des plus conservateurs qu'on puisse trouver. Bon. Et par conséquent, à partir de là, tout est basé là-dessus. Alors on a une morale, qui est la morale donc, qu'on appelle la version des quatre livres, et c'est cette morale du devoir qui va s'appliquer sur les rapports entre vassal et suzerain. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a d'abord un respect de la hiérarchie absolument fondamentale. Donc une subordination totale du vassal à son seigneur. Là, il n'y a pas d'échappatoire possible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le terme même de ce qui exprime, si vous voulez, cette domination totale, c'est ce qu'on appelle le giri, giri ou giri, G-I-R-I, et c'est ce qu'on appelle en fait la morale du devoir. On peut traduire ça par la morale du devoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si vous voulez, que c'est l'équivalent de notre contrat vassalique à nous, sauf que donc c'est pas du tout quelque chose de tangible. Alors, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on considère qu'un vassal, il a un ensemble de dettes vis-à-vis de son suzerain. Mais qu'il a à partir du moment où il est devenu son vassal. Et ses dettes, si vous voulez, eh bien, il ne pourra jamais véritablement donc les rembourser. C'est impossible. Il sera toujours en dette vis-à-vis de son seigneur. La dette ultime, bien sûr, de tous les Japonais, c'est vis-à-vis de l'empereur. L'empereur, tout Japonais, y compris le shogun, a une dette ultime vis-à-vis de lui. Mais, si vous voulez, chaque vassal a une dette envers son souverain, dette dont il ne peut pas se débarrasser. Il peut faire tout, il peut lui donner tous les services qu'il veut. Être le meilleur de ses guerriers, il ne s'en débarrassera pas. C'est-à-dire qu'il est dominé tout le temps. Sa soumission totale en découle. Résultat, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un conflit, ça arrive que, pour une raison X ou Y, un suzerain se montre véritablement tyrannique. Eh bien, la révolte est totalement impossible. Parce qu'à ce moment-là, elle mettrait en cause l'ordre normal des choses. Et par conséquent, la seule chose qui lui reste à celui qui veut protester, c'est la fameuse mort volontaire. Le suicide, en d'autres termes. Le fameux seppuku, etc. Alors bon, attention au film, hein, parce que c'est pas si simple que ça. Et on suicide pas toutes les 5 minutes au Japon, hein, faut quand même pas exagérer. Les samouraïs, ils tiennent quand même à la vie, hein, faut pas pousser non plus. Et puis le suzerain, il a pas tellement envie de voir ses principaux vassaux s'ouvrir le ventre de temps en temps. Bon, par conséquent, donc à partir de là, si vous voulez, donc, bon, il y a en tout cas cette solution. C'est quand vraiment il n'y a pas d'échappatoire et qu'on sait qu'on ne peut pas obéir, mais qu'on ne peut pas désobéir, ben, ma foi, on se suicide purement et simplement. Alors ça, si vous voulez, le guiri, c'est finalement à l'origine de ce qu'on appelle la morale du guerrier. Le guerrier, ça s'appelle Bushi. La morale du guerrier, c'est le Bushido. Donc, par conséquent, ce fameux code du guerrier dont on entend parler pendant la Seconde Guerre mondiale, puis après, bon, encore de nombreuses fois. Donc, si vous voulez, ce fameux code Bushido, c'est pas du tout un truc qui date de très longtemps. C'est quelque chose qui s'impose à ce moment-là, et c'est pas, si vous voulez, comme les films le montrent, absolument quelque chose qu'on doit absolument chaque fois se demander le matin si le soir on sera pas en train de se suicider. C'est complètement idiot. Mais c'est une morale extrêmement exigeante, et on peut pas y échapper. Mais, si vous voulez, ne voyez pas les Japonais comme des candidats au suicide permanent. Non, quoi, c'est ridicule. Hein. Donc, vous voyez, mais en tout cas, bon, ça donne quelque chose d'assez impressionnant. Alors, ceci étant dit, on a quand même quelquefois une échappatoire. Si vraiment un suzerain exagère, si on peut dire, il y a une échappatoire, c'est de refuser de continuer à le servir. Donc, dans ce cas-là, c'est rarissime parce qu'on devient ce qu'on appelle un ronin, c'est-à-dire un samouraï sans maître. Et à partir de là, vous avez perdu, si vous voulez, ben, toute place dans la société. Vous êtes pratiquement à l'échelon le plus bas. Mais c'est un moyen, là aussi, de protester. Et puis, ben, ça permet aussi, quelquefois, d'avoir quelques hommes de main, de temps en temps, quand on veut se débarrasser de quelqu'un. Bon, c'est assez pratique. Hein. Donc, ben, ils sont quand même assez doués, disons, pour le métier du combat, quand même. Ils se battent pas souvent, mais ils sont censés, avec leur de ça, vous rappelez, le court et le long, bon, ben, être véritablement, quand même, capables de se battre. Donc, voilà à peu près comment ça marche. Vous voyez ce que c'est que cette féodalité, cette vassalité, c'est quand même très différent de ce qu'on a, disons, l'habitude de voir chez nous. C'est pour ça que quand on a des... Souvent, on dit, ben, tiens, finalement, le Japon féodal, c'est l'équivalent de notre féodalité. Ça n'a rien à voir. Hein, mais alors, vraiment, strictement rien. Bon. Alors, enfin, une dernière chose. Il faut bien voir quand même que ce système de féodalité, et ce système mis au point par les Tokugawa en 1603-1615, ça a été absolument invariable et ça a duré jusque, donc, en 1850. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout bougé, ça n'a pas évolué. Mais ça a donné une paix et une stabilité sociale, économique et politique extraordinaire. Il n'y a pas eu d'ennui au Japon pendant 2 siècles et demi, quoi. Et on ne s'est pas bagarré. Et on s'est d'autant moins bagarré qu'il y avait, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que tout daimyo était interdit de guerre privée. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se faire de se battre contre un autre daimyo. On devait obligatoirement demander l'arbitrage du shogun. Et comme le shogun, bah, on se méfiait un peu de son arbitrage, parce qu'il n'avait pas forcément les mêmes idées que ce qu'on attendait, bon, bah, généralement, on ne se battait pas. Quoi. Donc, vous voyez, par conséquent, comment ça marche. Revenons maintenant au reste de la hiérarchie sociale. Alors, on est revenu, donc, ici, voilà, avec notre hiérarchie sociale. Alors, on grossit un petit peu, et on voit, par conséquent, la partie basse, cette fois-ci. Alors, vous voyez, ça représente 93% du total. Là, on est aussi dans le confucianisme le plus radical, le plus conservateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, de moyen de passer d'une classe à l'autre. Et du point de vue prestige, ben, ceux qui sont les plus prestigieux après les seigneurs et les samouraïs, c'est les paysans. Façon de parler, parce que je vous ai dit quelle était leur situation. Mais ils sont plus prestigieux que les artisans et surtout que les marchands. Les marchands, ils viennent dans le confucianisme, vraiment en bas de l'échelle sociale, ils sont quasiment considérés comme des improductifs, ce qui est quand même un comble. Bon, mais bon, et c'est comme ça. Et alors, en dessous, bien sûr, vous connaissez, il y a ce qu'on appelle les états, les hors-castes. Alors, les hors-castes, ben, excusez, les ronines, vous voyez, c'est samouraïs sans maître, etc. Les geishas, hein. Alors, geisha, je répète, pas confondre avec prostituée, c'est quelqu'un qui, alors, effectivement, ça peut aboutir, effectivement, à un acte, mais c'est rare, la plupart du temps, c'est quelqu'un de très cultivé, mais qui est une dame qu'on appelle la dame de l'eau, c'est-à-dire qui s'occupe justement des distractions, etc. Simplement, c'est pas reconnu, c'est un système qui n'est pas apprécié. Bon, les acrobates, les lutteurs, bon, ce qu'on appelle les hors-castes. Alors, les pires de tous, c'est ceux qu'on appelle les inin, ils sont pas là-dessus, c'est ceux qu'on appelle les non-humains, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la mort. Comme ils s'occupent de tout ce qui est lié à la mort, on considère qu'ils font même plus partie des hommes. Pas à peine de vous faire un dessin, c'est pas vraiment... aujourd'hui, ça pose un gros problème, hein, parce qu'on a des gens qui sont encore dans ces cas, ce qu'on appelle les burakumin, et qui ont énormément de problèmes à se faire une place dans la société japonaise actuelle. Bon, mais ça, on en parlera une autre fois. Bon, voyez par conséquent, en gros, à peu près ce que ça donne. Alors, simplement, c'est que c'est ici, ces gens-là qui sont pour payer les autres, ben, voyez qu'il y a aussi une chose, dans le confucianisme, vous avez ici les gono, c'est-à-dire les plus riches des paysans, chez des chefs de village, et ils sont responsables solidairement de la bonne tenue du village. Ça veut dire que, par conséquent, s'il n'y a pas d'impôt qui est suffisamment payé, c'est eux qui trinquent. Donc, vous comprenez qu'à partir de là, ben, on est relativement tranquille, quoi, du point de vue de l'administration. Donc, vous voyez que c'est même assez bien fait. Alors, les seuls, finalement, qui vont s'en sortir un peu mieux, c'est les marchands. Parce que les marchands, ils vont se rendre indispensables. Avec les nouvelles routes, avec le Sankin-Kotai, etc., ben, il est évident que les marchands, ils vont prendre de la place. Alors, ce qui va être nouveau, c'est qu'il va y avoir, pendant les deux siècles et demi, finalement, un immobilisme de presque tout, sauf celui des marchands. Et c'est ça qui va provoquer la fin, donc, du système. Alors, juste un mot, quand même, pour parler de la politique de Tokugawa. Vous avez compris qu'il bloque tout. Mais alors, maintenant, ce qu'ils veulent aussi, c'est ne plus avoir du tout de rapport avec l'extérieur. Pourquoi ? Parce que l'extérieur, c'est perturbateur. Donc, l'extérieur, ça peut remettre en question ce système si parfait qu'il est fait si tranquille. Donc, à partir de là, il faut fermer. Alors, fermer quoi ? Eh ben, préserver la stabilité politique, ben, c'est-à-dire se méfier, donc, des étrangers. Alors, se méfier des étrangers, finalement, ils ont été utiles, mais maintenant, ils ne le sont plus. Alors, les étrangers, ils avaient là, ça, c'est les Portugais, vous voyez, tels qu'ils sont présentés. Alors, les étrangers, généralement, ils sont très longs, c'est les longs nez, comme on les appelle la plupart du temps. Bon, et vous les voyez ici, donc, c'est des Portugais hein, qui sont installés au Japon pour l'essentiel. Alors, je vous rappelle que ces Portugais, ils ont amené plein de choses, hein. Ils n'ont pas amené que les armes à feu, hein. Ils ont amené le tabac, ils ont amené le vin, ils ont amené, si vous voulez, des quantités, ils ont amené l'horloge. Hein, alors là, c'était très important. Les Japonais ont été vraiment tout à fait en arrêt devant les horloges, etc. Bon. Et puis, en même temps, ben, y a donc les chrétiens qui sont arrivés. On a vu Saint-François-Xavier, etc. Ça donne quoi ? Ben, ça donne, si vous voulez, que le christianisme, ça marche bien. Et si vous voulez, au début du XVIIe siècle, bon, c'est-à-dire aux alentours de 1630 à peu près, eh bien, on a 700 000 chrétiens sur 15 millions de Japonais. Donc, c'est significatif. Surtout au sud, mais c'est très important. Et si vous voulez, les Tokugawa, ben, ils ne nourrissaient pas d'hostilité de principe à l'égard des chrétiens. Mais il y a quelque chose qui les gênait beaucoup. D'abord, c'est que les sectes bouddhistes se sont rendus compte que les chrétiens, c'était des concurrents dangereux. Et donc, les sectes bouddhistes, qui étaient moins importantes qu'avant, mais qui l'étaient quand même, elles n'ont qu'une seule envie, se débarrasser des chrétiens. Logique. Et puis, les Tokugawa s'aperçoivent une chose, c'est qu'ils se disent, mais ces chrétiens-là, ben, ils obéissent à qui ? Ils obéissent au pape. C'est qui le pape ? C'est un type qui vient de l'extérieur, c'est un espèce d'empereur. Qu'est-ce que c'est que ce zouave ? Résultat des courses, par conséquent, ça peut être un danger pour la tranquillité du shogun et de l'empire. Donc, à partir de là, si vous voulez, les Tokugawa commencent à penser que les chrétiens font peser une sorte de menace politique latente vis-à-vis de leur pouvoir au sens strict du terme. Et puis, ils sont pas fous, les Tokugawa, hein. Ils savent très bien, parce que même si le Japon n'est pas encore fermé, ils savent très bien qu'un peu plus au sud, eh bien, on commence à coloniser du côté européen. Et que les acteurs principaux qui amènent les colonisateurs, c'est souvent les missionnaires. C'est souvent, justement, les jésuites, etc. Donc, à partir de là, les jésuites et les portugais, ou les espagnols, sont plus tellement en odeur de sainteté, si on peut dire. Et puis, alors, coup de peau, plutôt coup de malchance pour les portugais, l'arrivée des anglais et des hollandais. Alors, les anglais et les hollandais, eux, ils se fichent complètement de la religion, soyons clairs. Et eux, ce qui les intéresse, c'est faire du fric. Résultat des courses, ça tombe très bien pour les Tokugawa. Ils se disent, ils nous cassent les pieds avec leur religion, on n'a plus besoin d'eux puisqu'on a trouvé mieux. Donc, résultat, à partir de là, on bascule côté hollandais et anglais et on expulse d'abord les Espagnols et ensuite les Portugais. Vous voyez ? Et puis, au bout d'un moment, ben, on se rend compte malgré tout que le christianisme a pris de la place, etc., et que ça ne peut pas durer. Résultat, par conséquent, alors tenez, vous voyez par exemple un marchand hollandais, hein, ici, qui fait son commerce, etc., un navire de commerce, japono-hollandais, si vous préférez, hein, ici, hein, avec, on le voit, alors vous avez plein de japonais, mais si on grossit un peu, vous remarquez que vous avez ici, je suis allé trop vite, que vous avez ici, par exemple, des marchands, donc vous voyez, qui sont habillés à l'européenne. Donc c'est ceux qui conduisent, en fait, le navire, etc. Bon, parce que les japonais n'ont jamais réussi à maîtriser, en tout cas à cette époque-là, la navigation maritime au sens strict du terme. En plus, ils n'intéressaient pas, parce qu'ils avaient envie de se fermer, mais quand même, bon. Et puis, résultat des courses, ben, comment on se méfie d'eux, mais qu'on veut quand même garder une porte de sortie, avoir quand même une idée de ce qui se passe vers l'extérieur. Finalement, on décide que tout le monde part, il n'y a que les Hollandais qui restent, et on les parque dans un endroit précis, à Nagasaki, mais pas sur la terre de l'Empire. On les parque dans une île artificielle, l'île de Deshima que vous avez ici, et qui est, si vous voulez, construite exprès à leur intention, dans laquelle ils sont complètement parqués. Vous voyez, ils sont même pas sur le sol japonais. Parce que, en principe, aucun étranger n'a plus le droit de toucher le sol japonais à partir de 1635. Vous voyez ? Les Chinois, eux, qui sont des commerçants dans l'âme aussi, ils sont également éjectés, sauf s'ils passent par l'intermédiaire des Hollandais à Deshima. Donc, vous voyez, par conséquent, donc il y a une petite porte de sortie. C'est important parce que une des évolutions de l'Empire, ça sera, mais on en parlera la prochaine fois pour ce qui fait sauter cet Empire, c'est ce qu'on appelle les études hollandaises. Parce qu'après, au fur et à mesure que les siècles avancent, il faut bien voir ce qui se passe un peu à l'extérieur, puis on se rend bien compte qu'il y a des choses qui se passent à droite et à gauche. Par conséquent, bon. Donc, vous voyez, alors, maintenant qu'on a réglé leur compte, donc si on peut dire aux marchands hollandais, on règle leur compte aux chrétiens. Et si vous voulez, le christianisme est éradiqué en 1636, avec le massacre, en quelque sorte, de Nagasaki. Vous voyez, c'est une illustration de ce massacre. Hein. Les chrétiens sont parqués, puis ensuite sont purement et simplement décapités au sabre. On expose leurs têtes, les corps ensuite décapités sont là. Il y a, en gros, en l'espace d'à peu près 2 mois, 36 000 morts. Les autres, ben, ils n'ont qu'une seule solution. Soit ils passent par là, soit à ce moment-là, ils renoncent au christianisme. Évidemment, c'est ce qu'ils font. Résultat des courses, en 1636, le christianisme a disparu, si vous voulez, comme force, véritablement, donc au Japon, à ce moment-là. Donc, vous voyez, par conséquent, un peu comment ça se présente. Bon, ça veut dire aussi, mais c'est ça qui est dingue, toute aventure outre-mer est, bien sûr, bannie. Mais ça veut dire que les Japonais, qui jusque-là s'étaient installés, par exemple, en Corée, en Chine, on ne veut plus les connaître. Par conséquent, ils n'ont plus aucun droit à revenir au Japon, etc. C'est-à-dire une coupure totale, vous voyez ? Par conséquent, quelque chose d'assez particulier, on veut être tranquille. Alors, il faut bien voir, si vous voulez, que c'est, du coup, un Japon figé qu'on a là. Un Japon figé, qui est intéressant, c'est sûr, parce que pendant 2 siècles et demi, il n'y a plus de guerre. Je pense que vous vous rendez compte, on a vu l'histoire du Japon avant, c'était des seigneurs de la guerre sans arrêt. Là, pendant 2 siècles et demi, c'est la paix intégrale. L'ordre est maintenu, etc. Et on va voir que la prospérité est plutôt intéressante. Par conséquent, ça va bien. Mais alors, il faut bien reconnaître que ce système-là, ces institutions-là, ben, disons, étouffe toutes les forces de changement économique ou les forces de changement social. Ce qui veut dire que le Japon va prendre, pendant ces périodes-là, ben, un retard industriel, un retard artisanal plutôt, puis ensuite proto-industriel, comme on dit, et scientifique, très important. Alors, il va y avoir quand même des choses qui vont bouger. Mais malgré tout, on se rend compte qu'au bout d'un certain temps, ben, on commence à étouffer, quoi, dans ce Japon, au sens strict du terme. Alors, on peut terminer simplement en disant que il y a quand même, malgré cette espèce de blocage quasi total, il y a quand même des mouvements importants qui se font sentir, si vous voulez, dans ce Japon. D'abord, il y a quand même, on l'a vu, un accroissement de la population, puisqu'on passe de 13 à 27 millions environ, mais on bloque à 27 parce qu'il n'y a plus les moyens de nourrir, d'où les famines, etc. Ce qui veut dire que les révoltes paysannes, elles recommencent à partir de 1830. C'est-à-dire que là, on arrive à un moment où la cocotte minute commence à vouloir exploser. Donc, les paysans qui sont pourtant ultra-dominés, ils ne peuvent pas moins faire quand même que se révolter de temps en temps. Et donc, on a une fréquence des émeutes paysannes qui, disons, augmente à partir de 1830 pour l'essentiel. Ceci étant dit, même dans les campagnes, il y a des progrès. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on commence à faire une spécialisation des cultures. On commence à faire moins de riz. On commence à utiliser de nouvelles techniques agricoles plus intensives. On commence à faire rentrer certaines activités rurales dans le circuit économique des villes, donc le circuit monétaire. Donc il y a un peu d'argent qui passe dans les campagnes. Ce qui veut dire que, vous voyez, même là où tout est bloqué, surtout dans les campagnes, même là, il y a quelque chose qui bouge. Et puis surtout, je vous disais tout à l'heure, c'est les marchands. Les marchands qui prennent de l'importance. Pourquoi ? Parce qu'avec ce Japon unifié, là, vous avez un marché national qui se constitue, forcément. Ne serait-ce qu'avec les routes stratégiques que ce brave Iegasu a fait, bon, vous avez un marché national. On a une unité nationale. Par conséquent, se dire que les droits féodaux qui existaient avant, les péages, tout ça, c'est fini. On a un Japon uni, donc l'expansion du commerce, elle est forcément naturelle. Donc, le marchand, les marchands des grandes villes, eh bien, ils vont prospérer et ils vont avoir une activité non seulement dans les villes, mais à l'échelle de l'archipel tout entier. Et ils vont, du coup, ben, évidemment, très vite, un peu comme vous connaissez à propos de la Révolution française, attention, pas trop d'amalgame, hein, du style des bourgeois qui disent « mais enfin, on est de plus en plus riches et puis on n'a aucun pouvoir ben, ». C'est un peu ce qui compte. Ils sont de plus en plus riches, ils sont de plus en plus intelligents, ils sont de plus en plus éduqués et ils n'ont toujours aucun pouvoir. Ils sont sous les paysans, ils sont sous les artisans. Ça commence à bien faire, quoi, en d'autres termes. Donc, si vous voulez, il y a ça qui change. Dans les villes, ben, les villes deviennent des centres d'échange monétaires, commerciaux, etc. Et très vite, ben, finalement, ces marchands qui occupent, dans la théorie confucéenne, la base pratiquement de la pyramide, eh bien, ils deviennent finalement, ils prennent un rôle dominant dans la vie économique et donc aussi, bah, finalement, dans les ressources du shogun, etc. Donc, vous voyez, petit à petit, il y a une évolution tout à fait extraordinaire. Et c'est là, au XVIIe siècle, qu'on voit apparaître deux familles de marchands, dont on reparlera les prochaines fois, Mitsui, par exemple, qui, au XVIIe siècle, est un marchand de saké, sauf qu'il s'est pas mal débrouillé, hein, et qui ensuite, bon, bah, il arrive au niveau du Japon. Vous avez aussi Sumitomo. Bah, Sumitomo, lui, c'est un apothicaire, c'est un libraire aussi en même temps. Bon. Et en même temps, bah, lui, il va se mettre à exploiter des mines de cuivre, ensuite il va passer au niveau. Bon, c'est les premiers qui apparaissent. Et on commence à voir apparaître une certaine libre entreprise à ce niveau-là. Enfin, en même temps, ces gens-là, bah, ils ont envie de connaître davantage de choses. Ils ne veulent pas rester un culte. Donc, comme ils n'ont rien à faire, les bushi, les guerriers, pour qu'ils ne se battent plus, bah, il faut qu'ils s'occupent. Donc, ils vont devenir de plus en plus délettrés. Et du coup, comme ils sont de plus en plus lettrés, ces guerriers, ils ont envie de faire partager leur savoir parce qu'ils veulent s'occuper aussi. Résultat, ils commencent à éduquer de plus en plus, ben on va dire, la partie ben, la plus intéressante, la plus riche des marchands, la partie la plus riche des paysans, etc. Et vous avez une certaine éducation, donc, si vous voulez, qui se répand avec ce qu'on appelle des écoles monastiques, etc. Enfin, c'est un faux nez pour déclarer des écoles plus ou moins privées, d'une certaine façon, mais où il n'y a pas d'échange d'argent. C'est un service, en quelque sorte, que les bushis rendent aux autres, puis ensuite que les autres rendent à eux-mêmes. Résultat des courses, ça donne quoi? Ben, ça donne que, à la fin de la période Kokugawa, 45% des hommes savent lire et écrire, et 15% des femmes. Je veux dire, c'est autant que ce qu'on avait, nous, pendant notre proto-industrie. Hein. Donc, faut pas vous étonner non plus si ensuite, bah, justement, ça sera peut-être plus facile qu'on pense d'accepter, d'adopter la technologie occidentale. Vous voyez, il y a des choses qui bougent. Puis enfin, bon, bah, évidemment, vous avez une vie culturelle importante qui change. Alors bon, ça, on voyait un marchand ici. Bon, la vie, regardez aussi l'activité dans les villes. Hein, vous voyez, c'est... donc, alors, l'activité culturelle, l'activité artistique change. Avant, ben, on faisait des paysages. Maintenant, on fait des scènes de rue. Ben, vous connaissez, par exemple, les estampes, en particulier celle d'Hiroshige. Ben, il a une vague disons, d'assentiment énorme à ce moment-là. Vous voyez, on joue. Hein, donc, ce qu'on représente, donc des jeux de société, c'est des femmes qui jouent. Donc, ici, le sumo commence à se développer, c'est le moment où il se développe. Avant, il n'existait pas. Hein. Bah, là encore, c'est pareil, il faut bien qu'on ait des bagarres, puisqu'on n'a pas de bagarres en réalité. Bon, il faut bien qu'on se défoule de temps en temps. Donc, les sumo, ça sert à ça. Mais bien sûr, on religieuse tout ça pour que ça aille un petit peu mieux, ça va de soi. Ensuite, bah, vous avez les geishas, bon, ça c'est contemporain, hein, j'ai pas trouvé vraiment de l'époque, et vous avez le théâtre kabuki. Le théâtre kabuki, c'est génial. C'est avec, vous voyez, le spectateur, il est au milieu du théâtre. Et donc, ça, c'est des théâtres populaires. C'est des théâtres qui représentent aussi bien des samouraïs que des bushis que du peuple, etc. Il n'y a jamais de femmes. Hein. Les femmes, c'est interdit. C'est toujours des hommes qui ont les rôles de femmes, etc. Et vous voyez, on est au milieu, avec en plus de la machinerie. On a des espèces, vous voyez, comme ça serait ici, des ascenseurs pour monter d'un seul, faire arriver un dieu, faire arriver, etc. Et c'est marrant, quoi. Et si vous allez au Japon, n'hésitez surtout pas à aller voir un kabuki, parce que d'abord, alors là, attention, ça dure 6 heures, hein, voire même quelques fois plus. Donc vous allez que vous mangez, vous voyez, on mange dans le théâtre en même temps, etc. Mais c'est génial, parce que là, alors la traduction est très bonne, et puis les mimiques, c'est tellement, si vous voulez, ça bouge un peu comme le peuple, finalement. Bon, ça n'a rien à voir avec le théâtre, non. Là, vous vous amusez véritablement, quoi. Donc là, vous avez ça, alors voilà un exemple après, bah, vous voyez, d'un acteur de kabuki. Alors, il n'a pas un masque, c'est simplement un grimage, en quelque sorte, mais c'est très envolé, etc. C'est très chouette. Alors, bien sûr aussi, j'allais oublier la cérémonie du thé. La cérémonie du thé, autrefois, qui était réservée aux grands, maintenant, les marchands, tous ceux qui sont dans les villes, font de la cérémonie du thé. Alors, bien sûr, on a aussi, alors, les intérieurs, vous voyez, des daimyos, ou de ceux qui prennent de la richesse petit à petit. Tiens, voilà un daimyo en habit d'intérieur. Vous voyez, il n'a plus vraiment ses deux sabres au sens strict du terme, bon, etc. Bon, vous voyez qu'on prend des... Alors, bien sûr, les armures. Vous voyez, ces armures, ce que ça donne. Que des armures d'apparat, bien entendu, puisqu'on se bat plus. Mais par contre, vous avez des quantités de bouchers et de daimyo qui font des collections d'armures. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez une très belle exposition qui est à Paris, hein, et si vous avez l'occasion, allez y faire un tour, il paraît que j'ai... Alors, vous en avez toutes sortes, hein, d'armures de ce genre-là. Voilà une maison de thé. Vous voyez, c'est pas n'importe où. Il faut que, comme il y a tout un cérémonial, etc., on fait ça, donc, dans un endroit très précis, etc. Vous avez toujours dans les paravents, bah, disons, les décors classiques. Mais alors, vous avez Hiroshige. Hiroshige, ben, c'est la vie de tous les jours. C'est les estampes, si vous voulez, voyez là, donc un cheval, etc., un petit pont. Bon, celle-là, vous la connaissez tous, hein, la vague, hein, pas la peine de vous faire un dessin. Hein, bon. Et puis ici, regardez une autre qui est assez intéressante. Là, la vie populaire. Bon, le, au passage, vous voyez le poisson, son importance, etc. C'est des thons, hein, cherchez pas. Hein, bon, etc. Et puis vous avez donc voilà aussi un paysan. Là, c'est Okusai, c'est l'autre, l'équivalent de l'alter ego d'Hiroshige, si vous voulez. Vous voyez, les choses changent. Ça, c'était impensable, si vous voulez, un siècle auparavant. Bon, ça montre que ben, y a toute une vitalité à l'intérieur, si vous voulez, du Japon qui est en train de prendre corps. Et cette vitalité, ben, elle a de plus en plus de mal à être enfermée dans, disons, ce système japonais. Résultat, ben, le Japon, en quelque sorte, il est, on va dire, vers 1830-1840, il est quasiment mûr pour, ben, disons, passer à une autre époque qui va être l'époque Meiji. Simplement, le baril des poudres, si vous voulez, il est prêt à exploser. On s'en rend pas compte. Et la mèche, elle va être allumée par qui ? Ben, par les Américains du Commodore Perry qui vont se pointer en 1853. Vous voyez ? Bon, ben ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois, notre terre. Bon, en gros, j'étais un peu vite sur certaines choses à la fin, mais je pense que c'est histoire de vous voir donner une petite idée globale donc, de ce qui va nous amener à changer. Voilà. Merci.